Ouh là, c'est très gros ça.
Oula.
Ouais, bon, ça fera le taf.
Titre.
Voyons.
Qu'est-ce que c'est ce machin?
C'est un détecteur de conneries.
C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout?
Mais dis-tu nos conneries?
Le jeu dit d'aller se faire enculer.
Vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe, à commencer par Hicham.
Et Joujou.
Camille.
Hello.
Et malheureusement, pas de Juan aujourd'hui, mais nous avons un super invité qui s'est joint à nous et qui est Thibaut.
Eh oui, bonsoir.
Thibaut de Saint-Maurice, comment vas-tu?
Eh ben, ça va plutôt bien, content d'être là.
Bah, écoute, très content que tu sois là également. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore?
Eh ben, fan de tarte au citron.
Ah, meringue ou pas meringue?
Ah, meringue. Ah. Meringue. Ah.
En plus, tu ressembles un peu à Philippe Estebès.
Ah, oui.
C'est ça, c'est la barbe et l'absence de cheveux.
T'as tout niqué maintenant, je ne vois que lui.
Et je cuisine effectivement aussi bien que lui.
Oh,
voilà. Non, rien à voir. Thibaut, donc voilà, prof de philo. Voilà, désolé pour ceux à qui ça rappelle de mauvais souvenirs.
Bon, moi.
C'était trop bien.
Voilà. Et puis en ce moment, je mets la dernière mouture avec toute une fine équipe à la deuxième édition du Paris Podcast Festival.
Oui. Oh, cool.
Voilà, une petite idée de festival qui est née il y a presque 3 ans maintenant. Parce que en fait, gros fan de podcast. Alors pas du tout podcasteur, hein, mais gros fan de gros auditeur de podcast. Et voilà, et ça a enchanté mes trajets de RER pour aller au lycée. Et au bout d'un moment, donc l'idée de voilà.
Ah, pour aller au lycée en tant que prof.
Ouais, voilà, exactement.
Alors, absolument no offense, mais je me suis dit, attends, je savais pas que c'était quand même.
Non, quand j'allais au lycée, le podcast n'existait pas. Voilà, petite sur, indication sur mon CD. Âge. Exactement. Mais non, voilà, en fait, l'idée de l'envie d'essayer de voir ce qu'on pouvait essayer de créer comme événement pour dire au grand public qu'il y a un truc qui est super, qui s'appelle le podcast natif. Il y a des tas de choses à découvrir, des tas de bons moments à passer. Et l'idée, c'est de créer un événement qui permette de rassembler un peu tout ça. Et puis de dire aux gens, de les aider à découvrir et de leur dire, écoutez, quoi, vous allez faire du bien à vos oreilles.
Et alors, si je peux me permettre, la première édition, du coup, la toute première qui était l'an dernier, était quand même plutôt réussie pour une première édition. Donc, c'était à la Gaîté Lyrique.
Ouais, Gaîté Lyrique à Paris. C'est encore à la Gaîté Lyrique, là, donc du 18 au 20 octobre, troisième week-end d'octobre. On va essayer de sanctuariser ce troisième week-end d'octobre comme étant le week-end du podcast.
Ah.
Voilà. Et cette année, alors, on fait tout plus grand. Parce que le podcast, ça va très vite. Il y a plein de gens qui écoutent, qui en font, etc. Voilà, il y a Pardon Maman qui explose, quoi. voilà. Et donc, l'idée, c'est d'accueillir toujours dans de meilleures conditions les podcasteurs, le public, les producteurs, enfin, tout le monde, enfin, tout l'écosystème podcast. Et c'est un festival qui est entièrement gratuit. Donc
venez.
Voilà, mais oui, venez. Courez.
Et on en profite pour faire une annonce, c'est que nous y serons. Donc, je ne donne pas l'heure précise parce que peut-être que, ne sait-on jamais, ça peut changer. Mais donc, on y sera le samedi 19 octobre dans l'après-midi à la Gaîté Lyrique pour une séance de questions-réponses. Donc, si vous voulez venir, dans tous les cas, nous, on y sera.
Et voilà,
si
vous verrez enfin les têtes de Hicham, Ilias et Camille.
Et Juan
après avoir tellement entendu leur voix.
N'est-ce pas? Ce sera avec grand plaisir. Et il me semble qu'on peut t'entendre au micro, enfin d'autres micros que le nôtre.
Oui.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En tant que je fais une petite chronique sur France Inter qui s'appelle La Petite Philo. Et c'est tous les mercredis matins cette saison aux alentours de 10h30, 10h40. Et l'idée, c'est de faire, vous savez, quand on a mal à la tête, on met une petite pastille d'aspirine dans un verre, ça pchite pendant quelques minutes et après ça va mieux. Et ben là, on fait pareil avec une petite pastille de philo.
Voilà, ça pchite
pendant 2 minutes et après, la vie est plus belle.
Oh, c'est magnifiquement dit. Très bien, j'ai écouté, c'est très très chouette et je vous encourage à écouter également. Sur ce, mais de quoi va-t-on parler aujourd'hui?
On va commencer par Camille.
Oui. Tout à fait. Et moi, je vais vous parler de l'homme qui a inspiré à Daniel Defoe l'histoire de Robinson Crusoe. Voilà. Un homme qui a vraiment... des petites mésaventures.
J'espère que tu nous rediras de tête le titre complet de Robinson Crusoe.
Oh mon Dieu. Non, je ne pense pas.
Bon, on essaiera de le retrouver. Après, ce sera Thibaut.
Oui, moi, j'avais envie de vous parler d'une expérience de psychologie sociale assez célèbre, qui est l'expérience de soumission à l'autorité du psychologue américain Stanley Milgram. Pourquoi ? Bah, parce que j'en ai parlé la semaine dernière à mes élèves.
Pratique.
Et là, voilà, je pousse les murs de ma classe et je parle à l'univers entier de cette expérience.
Écoute, ça me fait très plaisir. Ça fait des années que je repousse le moment où, parce que c'est une expérience que j'aime beaucoup aussi, donc le moment où j'allais la faire. Mais donc, voilà, parfait, c'est fait.
Ça va être un peu une découverte pour moi. Je connais de nom, mais je ne sais pas exactement de quoi ça consiste.
Je la fais maintenant, comme ça, c'est réglé. 1000 grammes, ça n'a aucun rapport avec les kilos. Aucun.
Oh mon Dieu.
Pas mal.
Alors, okay. Du coup, après, ça sera Hicham.
On n'a pas un petit jingle de batterie. Batterie cymbale.
Du coup, ouais, moi j'enchaîne avec un pourquoi.
Un petit pourquoi.
Pourquoi
qui reste toujours secret pour l'instant. Même nous, on ne sait pas ce que c'est.
Oui, c'est vrai.
Donc j'ai hâte.
On peut faire des propositions ou...
Si tu veux, si tu trouves, c'est fort, putain.
Pas mal.
Et après, on finit par le patron.
Exactement. Ça me fait toujours un peu bizarre quand vous m'appelez comme ça. Mais... parce que là, après, les gens vont croire que je m'y habitue. Bah, que
t'es le patron, patron, c'est tout.
Arrêtez, en fait, ça lui fait super plaisir.
Mais bien sûr.
Ça me gêne de ouf.
Il est rouge de joie, là.
Ouais, ça me gêne de ouf.
Il saute sur son coussin.
Les gens vont s'imaginer des choses bizarres. Donc, pour finir, moi, j'ai parlé de l'effet placebo.
Cool.
Et encore une fois, rien à voir avec un groupe d'émo rock. Rien. Sur ces magnifiques galéjades, est-ce qu'on partirait pas sur le sujet de Camille ?
C'est parti.
N'aimer personne, être seul, n'être aimé de personne, être libre.
Je n'y arriverai pas tout seul.
Je suis seul au monde, il n'y a rien à faire, je suis seul au monde.
Ah, Corneille.
Vous avez raté Hicham qui chante et qui danse. Magnifique.
C'est vrai.
Enfin, qui chante.
Ouais.
Qui playback, tout à fait.
Ce qui est encore non priceless.
Non, c'était une instru, c'est moi qui chantais en fait.
Ah, d'accord.
Alors, en 1719, on a un écrivain anglais qui s'appelle Daniel Defoe, qui va publier un roman qui devient très très vite une œuvre incontournable de la littérature, dont on a tous déjà au moins entendu parler ou éventuellement lu en seconde, pour mon cas.
Très précisément en seconde. Hein.
Je m'en rappelle très bien.
Le 28 avril.
Tout à fait, il pleuvait. Il s'agit de Robinson Crusoe et je n'ai plus le nom précis de l'œuvre, mais Ilias, je pense
que tu
l'as.
Est-ce que je le donne maintenant ou à la fin de ton sujet ?
Non, vas-y, lâche-toi.
Maintenant, alors c'est long. Alors, le titre complet et original de Robinson Crusoe, c'est donc « La vie et les aventures étranges et surprenantes de Robinson Crusoe de York, marin, qui vécut 28 ans sur une île déserte sur la côte de l'Amérique, près de l'embouchure du grand fleuve Orénoque, à la suite d'un naufrage où tous périrent à l'exception de lui-même, et comment il fut délivré de manière tout aussi étrange par des pirates, écrit par lui-même. »
Le tout en mangeant un clafoutis.
Ouais, putain, c'est chaud c'est à prononcer.
C'est pas un titre, c'est un pitch. En fait.
Ah, mais c'est même la première page, très direct. C'est ça.
Donc voilà, alors vous connaissez en gros l'histoire de Robinson Crusoe tous.
Ouais, mais qu'on vient de la voir.
Oui, déjà.
Mais je savais pas que c'était en anglais à la base.
L'histoire de Robinson Crusoe oui. Tu pensais que c'était quoi français ?
Je sais pas, moi c'est Robinson Crusoe, c'est pas Robinson Crusoe.
Oui, bah parce qu'on le prononce à la française,
c'est
mais probablement qu'au Royaume-Uni ils disent Robinson Crusoe.
Crusoe,
ouais,
right.
Voilà. Donc oui, voilà, Robinson Crusoe, c'est l'histoire effectivement de ce marin qui se retrouve naufragé et qui va vivre pendant 25 ans, 24 ans, enfin très longtemps sur une île et qui va devoir apprendre à vivre seul sur cette île. Alors, cette histoire, elle est inspirée de la vie d'une personne qui a réellement existé et qui a en fait été contemporaine de l'auteur et qui est un marin qui s'appelle Alexandre Selkirk. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Alexandre Selkirk.
Pas du tout.
Non, eh bien, je vais vous conter son histoire. Donc, Alexandre Selkirk, pardon, il grandit à la fin du XVIIe siècle dans un petit village de pêcheurs en Écosse actuelle. Son papa, il est pêcheur, il vient d'un milieu assez modeste, mais pas non plus pauvre. Et c'est un jeune homme qui est connu dans le village pour faire pas mal de bêtises. C'est-à-dire qu'il va y avoir un procès qui va s'ouvrir contre lui parce qu'il a eu une conduite indécente dans une église. On n'en sait pas plus, mais il a probablement fait l'hélicobite devant des têtes. Voilà,
on a des petites idées.
Voilà, on en est là-dessus. Et donc, pour éviter ce procès, il décide de fuir, de quitter le village. Donc, c'est un village, je ne sais plus comment ça s'appelle, Largo, je ne sais plus quelque
Orange.
Chose, mais voilà.
Orénog.
Non, mais en tout cas, il décide de quitter ce village et il devient marin. Et donc, il va voyager pendant de nombreuses années, il va voyager assez loin. Et en 1703, il trouve une place à bord d'un bateau de corsaires. pas de pirates. Est-ce que vous connaissez d'ailleurs la différence entre les corsaires et les pirates?
Oui, on l'a déjà dit.
Moi, madame.
Ah.
Oui, vous, le petit au fond de la classe.
C'est ça. Le corsaire, il a une autorisation de mener des attaques contre les galions ennemis. C'est une façon, en fait, d'utiliser des pirates quand même, mais de façon à peu près légale, en leur donnant une mission. Ils ont le droit de piller. Au nom d'un roi.
Ah, donc c'est des mercenaires au final.
Un peu des mercenaires.
Et le roi se fait un petit pourcentage, je crois, voilà. sur ce que les corsaires.
C'est la TVA, quoi.
C'est du banditisme organisé. Quoi.
Mais je crois, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est qu'en temps de guerre qu'ils ont le droit d'attaquer les navires ennemis du pays contre lequel on est en guerre.
Ouais, à l'époque, à l'information. Voilà. C'est très clair.
Puis on est tout le temps en guerre à l'époque. Alors, donc voilà. Donc en tout cas, il intègre effectivement ce bateau de corsaires, donc merci pour la définition, et ils partent dans le Pacifique. Et à peu près au bout d'un an de voyage, en 1704, lui, il est un petit peu monté en grade dans le bateau, c'est-à-dire qu'il est entre les officiers et les sous-officiers, en quelque sorte, et il constate qu'il y a eu une anomalie technique au niveau de la coque du bateau, et il en fait part au capitaine en disant, voilà, moi ce que je propose, c'est qu'on s'arrête sur la prochaine île qu'on trouve, et puis que je te remette un petit coup de mécanicien là-dedans, je te revisse les deux boulons,
un petit peu de l'azur, et puis
la courroie du ventilo, je te change tout ça, mais on peut pas partir sans réparer ça. Et le capitaine, lui, il en a cure, il lui dit, non, c'est hors de question, on continue, moi je suis sûr que tout va très bien se passer, et ils se prennent le chou très très fort à bord du bateau. Et il faut savoir que notre petit Alexandre, lui, depuis le début du voyage, dès qu'il y avait eu des tentatives de... comment est-ce que ça s'appelle ?
Putsch.
Mutinerie.
De mutinerie,
ah oui,
exactement.
Il avait, sur un bateau.
Il avait toujours été dans les coups des mutineries, donc le capitaine l'avait un petit peu mauvaise contre lui. Et donc notre Alexandre, il lui dit, bah écoute, puisque tu veux pas m'écouter, ce qu'on va faire, c'est que tu me donnes une passoire, un paquet de nouilles et un sac à dos, et moi je veux que vous me débarquiez sur l'île qui est juste là-bas, je refuse de continuer à voyager avec vous.
Et donc au départ, c'est volontaire.
C'est absolument volontaire.
C'est un peu osé quand même, hein.
Et le capitaine, il est très content de pouvoir se débarrasser de ce trouble fait. Et il lui dit, allez banco, on vend la caravane et je te dépose là.
Donc, rien à voir avec un avion FedEx qui s'écrase.
Rien à voir avec un avion FedEx.
D'accord. Ah ouais.
Et donc, on va le débarquer. Donc, tandis qu'on s'approche de l'île en question, lui, il va essayer de motiver des copains en fait avec lui et de dire, mais venez avec moi. Et tout le monde se dit, mais c'est un très mauvais plan ce que tu es en train de nous faire.
Ça pue gros. Enfin...
Absolument. Et donc, il va se faire débarquer tout seul sur l'île de Masatiera, qui est au large du Chili. Et il se fait débarquer donc avec quelques vivres. On le laisse et on repart. Et lui, il réalise sa bêtise au moment où il voit le bateau partir. Donc, il allume rapidement un feu, il fait des grands signes, il fait coucou, revenez.
Je rigolais.
Les autres se disent, oh, bah, il nous dit au revoir.
Voilà, et le capitaine lui fait coucou et décide de ne jamais revenir. Donc, on va le laisser là. Voilà. Donc, bonne nouvelle pour lui, néanmoins, petite parenthèse, c'est que quelques semaines plus tard, le bateau va effectivement couler à cause du problème technique.
Il avait du nez, d'accord.
Voilà, et presque tout l'équipage est mort noyé pour le coup, donc c'est pas plus mal. Okay. Mais
je retire toute la bêtise que j'ai pensée de cette personne.
Voilà, mais il n'est pas encore tout à fait tiré d'affaire. Bon, comment va s'organiser sa vie sur l'île? Alors déjà, il va nous faire une petite dépression pendant les 8 premiers mois, j'ai envie de dire, tu m'étonnes.
Petite dépression.
Une légère dépression, donc il a énormément de mal à affronter la solitude, il va expliquer lui-même plus tard qu'il a été saisi par des angoisses et par de la mélancolie, ses journées consistaient à s'asseoir sur le sable et à fixer l'horizon dans le but d'essayer d'apercevoir un bateau approchant pour faire coucou.
Oh shit, ça me rappelle mes certaines heures de cours jadis, très très longues.
Donc quels sont ses biens? Donc ses seuls biens sont son petit coffre de marin avec quelques vêtements, des couvertures, il a également un fusil, une livre de poudre, donc tu vas pas bien loin, hein. Un sac de balles, voilà, tu vas pas bien loin non plus, un briquet à silex, du tabac, déjà il peut se rouler ses clubs sur la plage, voilà, une petite hache, un couteau, une bouilloire, mais une bouilloire de l'époque, donc c'est-à-dire un genre de petite casserole pour faire bouillir de l'eau, quoi.
Oui, bouilloire de l'époque.
Voilà. Des instruments de mathématiques, une Bible, quand même, c'est important.
Oui.
Et un recueil de cantiques pour chanter un petit peu le soir au coin du feu. Voilà.
Le sens des priorités de ces mecs, c'était pas gaffe.
Ah bah ça vous fait des bonnes soirées, tout ça. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il passe sa journée, il scrute l'horizon en mangeant des crustacés et il n'ose pas s'aventurer dans les terres. Donc c'est pas une île paradisiaque comme on pourrait le songer avec des cocotiers, etc. C'est une île qui est très rocheuse, très montagneuse, avec une forêt assez épaisse, il y fait assez humide et le climat est pas archi cool. Donc voilà, donc il vit sur la plage, il n'ose pas rentrer à l'intérieur de l'épaisse forêt de l'île. Et là arrive la saison de reproduction des lions de mer.
ça commence très très bien comme chapitre.
Ouais, qui vont envahir la plage, qui vont être très bruyants, qui vont l'empêcher de dormir, donc il va devenir à bout de nerfs. Et c'est là qu'il décide d'aller se réfugier dans la forêt pour fuir la reproduction des lions de mer.
Ça aurait pu être pire, il aurait pu choisir de s'accoupler avec des lions de mer.
Ça, je pense qu'il en a pas parlé.
Les lions de mer, c'est ce qui ressemble aux phoques.
Ouais, c'est ça, c'est des genres de phoques.
C'est pas très beau.
Ouais. Et c'est vrai que c'est très bruyant, ce genre d'animal quand même.
Enfin, j'en fréquente peu.
Oui, moi aussi, mais j'ai déjà entendu.
Explique le peu, s'il te plaît.
dans un prochain sujet.
Et donc, quand il arrive à l'intérieur de l'île, là, il va commencer à avoir une vie beaucoup plus agréable parce qu'il va découvrir des chèvres sauvages. Donc, du coup, ça lui fait de la viande et du lait.
Eh, hey, pas mal. Hey,
protéines. Voilà.
Et puis, comme dirait les légionnaires, potentiellement plus, même, notre histoire.
Ça, je sais pas, mais tu écoutes.
Bah, 8 mois, hein.
Oui,
8 mois.
Ça. Et c'est pas fini. Des légumes, des fruits. Donc, voilà, déjà, il se nourrit mieux. Et je pense qu'un estomac bien rempli, un moral qui pète le feu, comme on dit. Hein, enfin, comme je viens de le dire.
C'est une expression consacrée que tout le monde connaît.
Oui, bah, bien sûr.
N'est-il pas.
Il a étudié en Arabie Saoudite aussi.
Il va quand même se faire un petit truc un peu luxueux. C'est que monsieur, il va se construire 2 cabanes.
Attends, mais une pour le week-end.
Voilà.
T'imagines le luxe.
Donc, on fait un petit peu les foufous. Et il occupe ses journées en chassant des chèvres et en lisant la Bible. Donc, à 2 reprises, il va voir des navires s'approcher. Donc, il va faire des énormes coucous, allumer des feux, et les 2 fois, ça va fonctionner. Les navires vont dire « Oh, fichtre, il y a quelqu'un !» et vont s'approcher. Sauf qu'à chaque fois, c'était des Espagnols. Et les Espagnols, à cette époque-là, sont en guerre contre le Royaume-Uni, donc tuaient tout ce qui ressemblait à un Anglais.
Non, pas
et donc, ils devaient se planquer quand ils se rendaient compte que c'était des Espagnols. Ils couraient dans l'île et ils se cachaient en attendant que les Espagnols repartent quand même.
Alors, je m'excuse de te couper une énième fois, mais d'où l'intérêt des langues ? Parce que le mec, il aurait appris l'espagnol à l'époque, bim, il aurait pu faire semblant et il était sauvé.
Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. On ne le dira jamais assez. Donc, il lui arrive pas mal de soucis, hein, outre ses rencontres avec les Espagnols. Par exemple, il va faire une chute de 30 mètres en chassant une chèvre.
Ouais. 30 mètres ?
Et il n'est pas mort, étant donné qu'il a atterri sur le cadavre de la chèvre.
Non, mais 30 mètres ?
Mais c'est lui qui l'a raconté. Après, peut-être qu'il a amplifié le truc, tu vois.
Mais qui passait ses journées à lire la Bible. Tu m'étonnes que son échelle de valeur.
Et il pense qu'il est resté une journée dans le coma. Il a rampé jusqu'à sa cabane. Il avait des fractures. Il s'est fait des attelles, en fait, lui-même. Enfin, bref, je pense que ça n'a pas été les meilleurs mois de sa vie sur l'île.
Ah bah ouais.
Donc ensuite, il va avoir un autre souci. C'est qu'il se fait mordre par des rats qui viennent dans sa cabane. Donc, heureusement, il y avait des chats. Donc, il va les apprivoiser. Il va les dresser pour qu'ils chassent les rats. Et il va également apprendre apparemment au chat à danser au son de sa flûte parce qu'il s'est fait une flûte, le mec. Enfin, voilà.
Alors, quelles informations que tu viens de citer on doit prendre au sérieux et lesquelles on doit mettre de côté? Parce que là, c'est un épisode des Simpsons. Là.
Et c'est après 4 ans et 4 jours de cette vie de rêve qu'il va être retrouvé. Donc, il va quand même passer 4 ans et 4 jours sur cette île.
Je pensais que c'était plus que ça.
Mais c'est déjà énorme.
Oui, oui, non, c'est sûr. Attends. Tout...
Voilà. Hein. Ouais. Et donc, il est retrouvé en 1709 par un navire anglais qui passe par là, qui voit au loin qu'il y a quelqu'un qui donne signe de vie sur l'île. Et quand on le découvre, il ne sait plus parler. Il va mettre plusieurs, et moi je trouve qu'il s'en sort bien, c'est-à-dire que le capitaine du navire explique plus tard qu'il va mettre, je crois que c'est plusieurs semaines, à réussir à reparler un anglais correct. Et moi, je trouve qu'au bout de 4 ans sans parler, franchement, il s'en tire plutôt bien, le mec, de réussir à parler. Voilà.
Mais du coup, il n'a pas eu son vendredi ?
Non.
Au niveau des vacances.
Et non, il a été tout seul. Il a dressé des chiens et des chats et des chèvres. Mais c'est tout.
Donc, c'est une invention de faux au vendredi.
Absolument.
Ok, dessus.
Et il va avoir énormément de mal à se réhabituer aux choses quotidiennes. Par exemple, il va presque jamais réussir à revivre avec des chaussures aux pieds. C'est quelque chose qui va lui sembler terrible de devoir reporter des chaussures. Il n'arrivera jamais à s'y refaire. Voilà.
Honnêtement, ça va comme séquelles.
Oui, 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 bah, il va en avoir d'autres, hein, le pauvre. Et donc, en 1711, il rentre au Royaume-Uni. Et il est fauché comme les blés. Hein, il a rien du tout. Il est débarqué à Londres. Donc, il redécouvre ce qu'est une ville. Il doit tout réapprendre. Et il rencontre un écrivain qui va publier son histoire dans un journal en 1713, qui va plutôt bien se vendre. Donc il va se faire un petit peu d'argent et grâce à ça, il va retourner dans son village natal en Écosse où il devient une petite célébrité locale. Mais il est assez rapidement considéré comme un type relativement original. Par exemple, il va refuser d'habiter dans une maison en dur, il va se construire une cabane sur le terrain de son père. Il a énormément de mal à l'idée de raser à nouveau sa barbe et de s'habiller à nouveau avec des vêtements bah, compliqués, qui sont les costumes pour hommes du XVIIIe siècle, qui sont vraiment...
Ouais,
voilà, donc lui, il préfère vivre dans ses vêtements tout simples. Il va rencontrer une petite zouze. Il va l'enlever, il va l'enlever avec son consentement à elle, mais à cette époque-là, on part du principe que comme il n'y a pas les corps des parents, c'est un enlèvement. Ils vont partir à Londres, bon, au final, il ne va pas se marier. Et en fait, il n'arrivera jamais à se réadapter à la civilisation. Il va toujours dire que son île et que sa tranquillité, en fait, va lui manquer, étant donné qu'il a toujours expliqué qu'il avait été très heureux sur cette île, sauf les 8 premiers mois. Et il décide de reprendre la mer.
Ouais.
Donc, il retourne sur des bateaux et il va travailler sur un négrier. Et en 1721, au large des côtes africaines sur ce négrier, il meurt. Alors, il y a deux versions. Soit il meurt noyé en tombant du bateau, soit il meurt de la fièvre jaune.
Ah non.
Ouais, non, non. Ah. Mais bon, dans tous les cas, il meurt. voilà. Et il semblerait du coup que Defoe l'ait rencontré dans un bar très tard le soir à Londres.
Et que c'est ça qui lui a donné...
Et que c'est tout à fait ça qui lui a donné l'idée. De toute façon, ce type-là revient à Londres en 1711 et Defoe publie à Londres son ouvrage en 1719. Et en tout cas, Defoe ne s'est jamais caché du fait que ce soit inspiré de la vie de ce mec-là.
C'est fou, mais ça veut dire qu'il y a vraiment un intérêt à traîner tard dans les bars à Londres.
Ah bah, écoute, voilà, on sait quoi faire le week-end prochain, tous à Londres. Donc, ce qui est assez amusant, c'est qu'en 1966, du coup, l'île Massatira a été rebaptisée l'île Robinson Crusoe et non pas l'île Alexandre. C'est le Kirk. Mais par contre, l'île d'à côté a été baptisée plus récemment l'île Alexandre Selkirk. Mais il n'a jamais été dessus. Et en 2005, il y a des historiens qui se sont dit, mais c'est quand même dingue cette histoire. Allons voir si c'est vrai. Et on a retrouvé les vestiges des cabanes.
Sérieux,
de ce mec-là, explorer. Ouais, tout à fait. Donc,
en 2005.
Ouais, donc je pense que si on va aujourd'hui sur l'île, je pense pas que ce soit une île excessivement touristique. Hein, c'est un petit peu la Sainte-Hélène de l'Amérique du Sud, mais
c'était pas l'île de la première saison de Koh-Lanta.
Non, je ne pense pas. Non. Mais en tout cas, on a aujourd'hui les vestiges que ce mec a laissés lors de ses 4 années. Sur l'île. Et si vous allez voir les photos de cette île un petit peu sur internet, c'est vrai qu'elle a l'air quand même relativement inhospitalière, archi fat. Enfin, je sais pas, moi c'est un petit peu comme ça que, enfin, quand on regarde, c'est un peu des photos comme un peu Madère, quoi. Ça a l'air d'être une île super accidentée.
Aucune idée.
Ouais, mais enfin, pas une île très chaleureuse, pas très accueillante, pas très tropicale, quoi. Voilà. Donc j'espère que cette histoire vous aura plu.
Ceci est un oui.
Ah.
Et je suis plutôt partagé parce que je suis à la fois impressionné par son mi-aplomb, mi-bêtise initiale et par putain, mais ce qu'il a réussi à faire, quoi. Enfin, ouais. 4 ans de 4 ans d'aventure seul à survivre.
Mais ce qui est dingue, c'est que tous ces cas-là, souvent tu regardes, c'est des gens qui ont énormément de mal à se réadapter à la civilisation, ouais, en fait, après. Hein.
Bah, déjà, le temps de t'adapter. Et puis, enfin, bref, c'est des ouf, quoi. Je pense que tu vas te dire, bah, tu vas te conditionner pour potentiellement te dire, bon, bah, je dois me conforter avec ce que j'ai.
Bah, parce que je pense qu'en fait, au bout d'un moment, lui, il devait se dire que jamais il ne sortirait de cette île, en fait. Je pense qu'il en avait tiré son parti.
Déjà, ouais, survivre 4 ans dans une île déserte, c'est.
Et les 8 premiers mois en bouffant que des crustacés, quand tu vois que dans Koh-Lanta, ils s'en plaignent au bout d'un mois, alors qu'en plus, ils ont du riz, les gars, quoi. Tu vois.
J'avoue.
Pas mal. Bah, écoute, merci beaucoup.
Mais je vous en prie.
Maintenant, ça me fait un peu flipper de partir en bateau, mais enfin, bon, en tout cas, je suis.
Non, mais demande pas être débarqué du coup.
Ouais. Ça, c'est vrai que le postulat de base était un peu compliqué. Mais du coup, il me semble qu'on va passer à Thibaut.
Oui.
Pour bien entamer l'expérience, je devais tout d'abord affirmer mon autorité.
À chaque fois que Monsieur Rivoli se trompera, vous lui infligerez une punition.
Respecte mon autorité.
Ça fait un peu peur.
J'espère que vous aurez reconnu les extraits.
Star Wars.
Ah, ouais. Ah non, la musique. Ça reste un peu obscur. J'ai mis le temps à trouver. C'était le laboratoire de Dexter.
Oh.
Ah oh. Putain. Ok.
Et au début, il y avait les choristes. Après, effectivement, l'extrait du film Icom Icar. Et on finit par un petit Cartman, bien évidemment.
Bien évidemment.
Et il y avait un autre truc, mais je ne me souviens plus. Mais donc, dis-nous, cher Thibaut.
Ouais, une question toute simple pour commencer. Est-ce que vous avez déjà eu peur de pouvoir faire des choses que vous n'assumeriez pas ou qui, peut-être, est-ce que vous avez déjà eu peur de vous-même en vous disant peut-être que je pourrais faire des choses qui me dépassent et que je réprouverai plus tard ? Est-ce que vous avez eu déjà peur
Sûrement,
ne pas être capable de maîtriser quelque chose qui serait le mal ou la méchanceté en vous ?
Ah oui.
Oui.
Ah oui, mais clairement.
Vous la connaissez, hein, cette petite musique parfois qu'on a au fond de nous ?
et qui fait que on ne sait pas tout à fait si on est complètement maître de nous-mêmes, complètement discipliné, ou si on peut s'échapper. Et puis on a des tas d'exemples. Hein, voilà, l'histoire est pleine d'exemples, vous savez, de ces hommes dont on pense que c'est des monstres, quoi, parce qu'ils ont des comportements. Vous savez qu'on dit, on dit qu'ils sont inhumains. Voilà.
Bestiaux.
Voilà, bestiaux, sauvages, cruels, etc. Alors voilà, moi j'avais envie de vous parler d'une expérience qui est assez célèbre, hein, qui est l'expérience de la soumission à l'autorité, qui a été réalisée par Stanley Milgram entre 1960 et 1963 dans la grande université de Yale dans le Connecticut. Alors Milgram, c'est un psychologue social. Donc c'est quelqu'un qui s'intéresse à la façon dont nos comportements dans des situations sociales sont déterminés par des causes psychologiques, ou en tout cas les répercussions à l'inverse de ces situations sociales sur des causes psychologiques. Pour le dire simplement, en fait, c'est qu'est-ce que ça change de pas être tout seul. Alors, on parlait de Robinson Crusoe, hein, qui était tout seul. Qu'est-ce que ça change de pas être tout seul quand on est dans des situations collectives, sociales?
Le poids de l'opinion publique.
Voilà, le regard des autres, ouais. Le conformisme, voilà. Et sur le conformisme, c'est marrant parce que Milgram, justement, un de ses profs, c'est un prof qui s'appelle Solomon Asch et qui est un des pères fondateurs de la psychologie sociale. Et peut-être vous connaissez l'expérience de Asch, qui est aussi très célèbre, où on fait comparer des segments de taille différentes. Et on plonge un sujet naïf au milieu de compères, comme on dit en psychologie sociale, de gens qui sont au courant de l'expérience. Et en fait, les compères vont dire, on pose la question de savoir, donc les trois segments ont trois tailles différentes, et on pose la question à tout le monde en disant quels sont les deux segments qui font la même taille ou dont la taille se rapproche le plus. Les compères donnent une réponse qui est évidemment fausse. Et en fait, dans plus d'un tiers des cas, les sujets naïfs se rangent à l'avis des compères qui donnaient une réponse fausse. C'est-à-dire que dans plus d'un tiers des cas, des individus lambda, voilà, on est tous des individus lambda, et ben des individus lambda sont capables de dire quelque chose qu'ils savent objectivement faux, évidemment faux, pour se ranger à l'avis de la majorité.
D'accord.
Voilà, c'est ce qu'on appelle un effet de conformisme.
Alors, on le fait un peu tous. Hein.
Et ouais, si je peux me permettre, je vous renvoie à l'épisode dont je ne me souviens pas, dans lequel j'avais parlé justement de l'effet des masses et des groupes, et qui transforme la façon de réagir, la rapidité avec laquelle on réagit et la façon dont on réagit, et c'est effrayant.
Exactement. Et en fait, c'est ça qui est génial dans ce domaine de la psychologie sociale, c'est que ça étudie un truc qu'on n'aime pas trop. En fait, ça étudie un truc qui est que on est influençable. On a souvent l'impression que parce que on claque la porte très fort de sa chambre en disant je fais ce que je veux et je rentre que je veux et je vois qui je veux, etc. On a souvent l'impression d'être des êtres libres, hein, et puis voilà, on a souvent cette définition spontanée de la liberté comme étant faire ce que l'on veut. La psychologie sociale, cette petite musique qui dit pas tellement, en fait. Hein. Regarde, t'as acheté des Converse comme tout le monde, tu portes un jean comme tout le monde, tout d'un coup, il fait froid, t'achètes les mêmes Uggs que tout le monde. Voilà.
J'aime regarder nos pantalons.
C'est ça.
C'est chaud.
Et donc, on se rend compte qu'on est beaucoup plus influencé par la présence des autres. Alors, c'est quoi cette expérience? Eh bien, cette expérience, c'est une expérience assez troublante et qui a fait énormément polémique à l'époque. Et même Milgram, il a été pendant un temps suspendu de l'équipe locale des psychologues, hein, parce qu'on a considéré que son expérience, elle flirtait un peu avec l'éthique scientifique. Alors l'idée, vous allez voir, elle est un peu tordue. Ça consiste en fait à faire paraître au départ une fausse annonce dans le journal local pour recruter des sujets afin de participer à une expérience scientifique qui est présentée comme étant une expérience de psychologie sur notre capacité à apprendre et à mémoriser. Voilà, c'est une expérience qui doit nous apprendre un peu davantage à les manières dont nous-mêmes on est capable de mémoriser le fonctionnement de la mémoire.
Okay.
Donc il y a des gens qui se présentent parce que c'est très bien payé. Voilà, c'est très bien payé pour une heure à peu près de temps. Il y a des gens qui se présentent. Et les gens qui se présentent, on va les appeler les sujets. Voilà. Et ils sont présentés à quelqu'un qui va jouer le rôle du scientifique, donc qui a une blouse blanche, qui est plutôt quelqu'un d'âgé, qui est plutôt quelqu'un de très sûr de lui, qui surjoue un peu son côté scientifique.
Le stéréotype d'un scientifique.
Pour s'investir un peu d'une autorité scientifique. Vous savez, c'est comme dans les pubs de lessive. Hein. Il y a toujours un moment où on passe dans le laboratoire et il y a un gars blouse blanche qui nous dit « Et c'est scientifiquement prouvé !»
Qu'un arène meilleur avec un truc bleu à l'intérieur.
C'est ça, voilà. Et comme pour le dentifrice aussi. aussi. Il y a toujours,
oui, c'est ce que j'allais
il y a
dire,
toujours le moment où on passe au laboratoire avec la blouse blanche. Voilà. Bon.
C'est ça.
Donc, il y a ce premier gars, donc en blouse blanche, qu'on va appeler l'expérimentateur, ou en tout cas le scientifique. Et puis, lui, il est au courant du fait que cette expérience est fake, en fait. On ne va pas du tout s'intéresser à la manière dont on apprend et dont on mémorise, mais on va s'intéresser à autre chose. Et puis, il y a un deuxième compère. Ce deuxième compère, donc le compère, c'est celui qui est au courant du sujet de l'expérience. Lui, il va être assis derrière une vitre sur une chaise électrique, et lui, il est censé jouer le rôle de celui qui apprend. Le dispositif est tout simple. Le sujet qui a été recruté, donc qui est naïf, qui ne connaît pas le rôle de l'expérience, on lui dit, voilà, il va falloir que tu lises une liste de mots. Cette liste de mots, l'apprenant, l'élève qui est sur son siège, il doit les mémoriser, et ensuite tu vas le réinterroger. Et à chaque fois qu'il va se tromper, tu vas lui infliger une décharge électrique. Voilà.
Et la décharge, genre, pas chaud là, pas chaud.
Okay. Et plus il commet d'erreurs, c'est-à-dire à la deuxième erreur, on double le volume de la décharge. Et on monte comme ça.
Donc,
jusqu'à ce que mort s'en suive.
Alors, en tout cas.
Tu ne peux pas si bien dire.
Voilà. Donc, on commence par une première décharge de test de 45 volts. Et l'expérience peut monter jusqu'à 300 volts.
Alors, attends.
Ah oui, ça fait chaud dans les narines comme ça.
45 volts, ça représente quoi?
La moitié de 90.
Merci. Non, mais
peu de choses près.
Aucune idée. Pas, parce que, moi, j'ai fait philo et pas physique.
C'est vrai.
Une pile LR6, je crois que c'est 6 volts.
Ok.
Voilà. Je sais pas.
Une petite châtaigne, quoi.
Ok.
Pour faire très simple, 45 volts, c'est pas du tout létal. C'est,
ça fait un aïe.
petit poc dans les pieds des micros. Non, effectivement, 45 volts, c'est juste un petit oui, effectivement. Et ça peut être, je sais pas si c'est exactement ça, mais ça peut être, mettons, tu vois, l'équivalent, je sais pas, t'as déjà touché
statique,
les, ça ou les barrières électrifiées pour les animaux, pour les vaches, trucs comme ça.
Non.
Bon, en gros, tu peux les toucher sans avoir de dommages physiques, sans être brûlé. Voilà.
Voilà, on retire vite la main parce qu'on a l'impression que ça pique. Ou
d'accord,
ça,
ok, ça marche.
Donc on a ce dispositif où le sujet qui lui n'est pas au courant de l'expérience croit que dès que l'élève se trompe, il va infliger donc une décharge électrique. Alors là où c'est un peu pervers, c'est que juste avant de commencer l'expérience, pour renforcer la croyance du sujet, on fait un test sur la machine et là, l'élève reçoit une vraie décharge de 45 volts et donc il réagit de manière extrêmement crédible puisqu'il reçoit vraiment cette décharge de 45 volts. Et en fait, une fois que ça commence l'expérience et que les voltages augmentent, évidemment, il ne reçoit plus rien. C'est un acteur qui joue les gémissements, les cris, la souffrance, etc. Donc vous avez compris, en fait, le but de cette expérience, c'est d'essayer de tester l'hypothèse de la soumission à l'autorité. C'est-à-dire jusqu'à quand et pourquoi et comment des individus qui sont de bonne foi, de bonne volonté, peuvent aller dans l'obéissance à une situation et des ordres qui manifestement vont heurter leur conscience morale ou en tout cas ils vont avoir en face d'eux quelqu'un qui exprime de la souffrance. Alors d'où ça vient ce type d'expérience? Pourquoi est-ce qu'on fait ce type d'expérience? Milgram, il n'est pas particulièrement pervers ou il n'est pas particulièrement...
Peut-être un peu, mais
on ne sait pas. En fait, c'est une question qui agite les sciences humaines depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Bien sûr.
Exactement.
Comment est-ce qu'on a pu en arriver là, en fait?
Exactement. Ouais. Parce qu'il y a deux hypothèses. Ou bien tous les bourreaux nazis des camps, des massacres de l'armée, etc. Ou bien tous ces gens-là sont des monstres. Auquel cas, ça fait quand même beaucoup de monstres dans l'humanité.
Et surtout concentrés dans la même région du monde, dis donc.
Voilà.
Je ne sais pas à quoi les mamans les nourrissaient, mais...
C'est ça. Et puis, ça se trouve, ça fait beaucoup de monstres qui nous ressemblent un peu trop. C'est-à-dire qui étaient avant, ils étaient boulangers, commerçants, comptables.
Mariés avec des enfants,
ils aimaient jouer au foot, etc. Donc, c'est une hypothèse qui est un peu trop dérangeante. Puis, il y a une deuxième hypothèse qui est de dire, en fait, ce sont des gens ordinaires, comme vous et moi. Mais là aussi, cette hypothèse est dérangeante parce que nous, on n'a pas l'impression comme ça spontanément qu'on pourrait, faire sortir des gens d'un wagon, les mettre tout nus, leur tirer des balles dans la tête ou les mettre dans des chambres à gaz, etc. Enfin, on n'a pas l'impression que spontanément, on pourrait faire ce genre de truc qui est tout à fait horrible. Donc, il y a un grand mystère après la Seconde Guerre mondiale sur vraiment un problème scientifique, de science humaine, de connaissance de l'humain, qui est comment c'est possible que des gens qui ont été boulangers, pères de famille, qui étaient amoureux de leur femme, qui jouaient avec leurs enfants, etc. Comment est-ce que ces gens-là ont pu faire de telles atrocités? Il y a ça dans la tête de Milgram, en fait. Il y a cette idée de dire, on va essayer de tester un petit peu la possibilité jusqu'où on peut aller dans la soumission à l'autorité. Et d'où ça lui vient cette idée? à Milgram, ça lui vient du procès de Adolf Eichmann à Jérusalem. Donc Adolf Eichmann, un des responsables nazis de la solution finale, qui a été donc arrêté par les services secrets israéliens, le Mossad en Argentine, puis ramené à Jérusalem pour un procès. Mmh. Et pour la petite histoire, la philosophe Hannah Arendt, qui était à ce moment-là à New York et qui écrivait des longs articles pour les journaux, est envoyée pour suivre le procès de Adolf Eichmann. Et elle sort un bouquin ensuite qui s'appelle Eichmann à Jérusalem. Et c'est dans ce bouquin qu'elle monte une hypothèse philosophique qui est très célèbre, enfin assez célèbre et en tout cas qui fait toujours débat, qui est l'hypothèse de la banalité du mal. Mmh. En fait, Eichmann, elle a été Arendt, elle a assisté au procès d'Eichmann et elle a vu quoi ? En fait, elle a vu un petit mec. Elle a, enfin, un petit vieux mec, mais en fait un petit gars qui n'avait pas du tout d'envergure, de charisme, et qui à chacune des questions qu'on lui posait disait « j'ai répondu aux ordres, c'était la hiérarchie, c'était la procédure, voilà ». Et elle dit en fait ce gars est un bureaucrate et un homme ordinaire. Et elle en vient à penser qu'il faut accepter cette hypothèse troublante que le mal, le plus, enfin voilà, ce qui nous paraît le plus horrible, le plus impensable, puisse être fait par des hommes ordinaires, par des gens de petite envergure qui n'ont rien de monstrueux, voilà, mais qui sont des gens simplement qui obéissent. Donc Milgram, il dit, c'est quand même fascinant cette affaire, on va essayer de la tester un peu scientifiquement. Donc, on revient à Yale, dans ce laboratoire de psychologie sociale, et donc on fait ce dispositif. Alors évidemment, il y a des gens, des sujets naïfs qui craquent tout de suite, c'est-à-dire dès la deuxième décharge, disent « ah ben non, moi je ne peux pas faire ça, je ne vais pas faire souffrir quelqu'un, il a vraiment l'air de souffrir, etc. » Et puis à ce moment-là, en fait, quand ça heurte la conscience du sujet, ce qui est intéressant, c'est que le gars en blouse blanche, là, celui qui se lave les dents avec du dentifrice efficace et qui prend soin de son lave-vaisselle, eh bien, ou de son lave-linge, ce gars-là, il a des réponses toutes faites pour encourager les gens.
La personne à le faire.
Voilà, continuer.
Voilà, la première réponse, c'est de lui dire « veuillez continuer, s'il vous plaît ». Ça reste relativement courtois, le vouvoiement, la formule de politesse. Deuxième réponse, l'expérience exige que vous continuiez. C'est-à-dire là, il faut
un petit coup de pression.
Un petit coup de pression et surtout, tout d'un coup,
c'est une obligation.
C'est une obligation liée en fait à l'expérience. Ensuite, il est absolument indispensable que vous continuiez.
Oh,
donc là, il n'y a plus de choix possible.
T'as pas le choix, quoi.
Et puis, quatrième étape, vous n'avez pas le choix. Vous devez continuer. Et donc, l'individu se trouve totalement déresponsabilisé dans ce qu'on pense être un libre arbitre.
Exact.
Voilà. Ça, c'est plus lui qui choisit, c'est l'expérience.
Qui lui impose de faire ça.
En tout cas, c'est comme ça qu'on lui parle.
Oui, oui, voilà.
Et c'est symbolique, en fait, de la manière dont dans certaines organisations, alors militaires ou dans certaines organisations d'entreprise, alors toutes choses égales par ailleurs, parce qu'il n'y a pas forcément de massacre derrière, mais on dit à des gens de licencier d'autres personnes ou d'annoncer des... Voilà, des...
Oui, ou alors bêtement, pourquoi on fait comme ça? Parce qu'on a toujours fait comme ça.
Exactement. Et si ça te plaît pas, bah c'est pas grave, on pollue en produisant de cette manière-là, mais ça te plaît pas, etc. Bon. Donc cette expérience, elle place les sujets dans des états de stress importants. Et alors le plus flippant, attention, c'est le moment du résultat, hein, c'est le moment du pourcentage de gens qui sont allés infliger la décharge la plus importante.
Qui est létale, elle, pour le coup?
Ouais. Alors, qui est censée être, si ce n'est létale, en tout cas, qui est censée faire perdre connaissance aux...
Oh là là là.
Alors, par contre, petite précision, c'est que les gens, il me semble que dans la première expérience, les gens n'étaient pas obligatoirement au courant que c'était une décharge létale. Il me semble qu'il y a eu des variantes où il y avait des têtes de mort, etc. Mais la première expérience, ils n'étaient pas forcément au courant.
Exactement, ils n'étaient pas forcément au courant que ce qu'ils allaient infliger pouvait être mortel.
Mais ils voyaient bien que la personne souffrait légèrement avant.
Oui, parce qu'en fait, du côté de celui qui joue le rôle de celui à qui on inflige les décharges électriques, il y a aussi tout un programme de jeu. Par exemple... À 150 volts, il doit supplier qu'on le libère et que l'expérience s'arrête. À 270 volts, il doit crier de manière extrêmement violente. Et puis, à 300 volts, en fait, il doit perdre connaissance, ne plus répondre. Voilà, il doit faire semblant qu'il perd connaissance.
J'imagine les gens qui rajoutent une décharge, genre, bzzz, ouais, bon, pas, bon, j'en mets une autre. Hein,
C'est une décharge de combien de temps, on sait ça ou pas?
Ah non, là j'ai pas cette info aussi précise.
Mais trois secondes, c'est énorme.
Oui,
non, la bonne question, je vais vous dire la bonne question que je n'ai pas, mais peut-être vous avez la réponse. C'est combien une décharge de taser?
très bonne question.
Oui, c'est une
je crois que c'est dans les 1000. Si je dis pas de bêtises.
Ah ouais, 1000, ça te met quelqu'un par terre direct, quoi.
Bah, je crois que c'est...
C'est le concept.
C'est le concept du taser. Mais bon, alors, le résultat. On y va. Faites vos jeux. Combien de pourcentage de sujets qui ont fait cette expérience?
Je suis brisé parce que je...
Moi, j'ai envie de dire plus d'un sur deux. Moi, j'ai envie de dire 55%.
Ok, Hicham.
Je ne sais pas.
Il faut deviner.
Ce n'est pas une réponse.
L'épisode l'exige.
Exactement.
Allez, 75%.
Okay. 65.
Ilias ?
Non, bah, on ne s'est pas mouillé, quoi.
65 ?
Ouais. Ah.
65% des gens.
Wow. J'aime bien les expériences de psychosociales.
65% des sujets qui ont participé à cette expérience. En fait, alors, ils ne sont pas forcément allés jusqu'au bout. Mais en tout cas, n'ont pas cessé d'envoyer des chocs. Parce que de temps en temps, en fait, pour varier, avoir des données supplémentaires, l'expérimentateur, là, le gars en blouse blanche, de temps en temps, il arrêtait avant le 300 volts, il arrêtait à 150, à 270, etc.
Puis le comédien était fatigué aussi. Voilà.
Arrêtez, vous voulez cramer celui-là, on va changer.
Mais ce que ça veut dire, c'est que 65%, en fait, ont cru à cette situation d'expérience. Et en fait, on crut au fait que c'était légitime, puisque en fait, c'était on était dans un laboratoire, il y a un monsieur en blouse blanche, on est payé pour ça, il y a une annonce dans le journal local, je suis à la fac, enfin, il y a des tas de choses voilà, qui font qu'on a de bonnes raisons de croire que ce qu'on nous demande de faire, il faut le faire.
Puis, si le mec vient en blouse blanche, c'est que c'est sérieux, sinon il serait habillé normal, tu
mais
vois.
Exactement, exactement. Mais le fait que ça se passe à la fac, c'est important, le fait aussi que c'était payé, qu'il y a eu une annonce dans le journal local, enfin... Tout ça, en fait, ça constitue de bonnes raisons de croire qu'on est... voilà. Et en même temps, on a en face de soi une excellente raison de croire qu'il faut s'arrêter. C'est-à-dire qu'on a un gars qui hurle. Voilà. Donc, c'est un peu flippant. Et alors, du coup, Milgram fait cette expérience. Il se rend compte des résultats absolument incroyables. Et donc, entre 60 et 63, il fait les premières... Il met au point cette expérience avec des tas de variantes.
Alors, excuse-moi, est-ce qu'il disait au sujet... À la fin, est-ce qu'il leur expliquait le concept ?
Ouais, à la fin de l'expérience, il y a un débrief.
Il devait se sentir un peu con quand même.
Voilà,
et je crois que l'éthique l'exige que d'expliquer à la fin.
C'est aussi, en fait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles cette expérience, elle a été très contestée, c'est parce qu'elle place les sujets dans un état de stress puissant. Et alors, donc, il y avait deux débriefs. Il y avait un débrief à la fin de l'expérience avec un questionnaire, comment vous sentez-vous, pourquoi avez-vous fait ça, etc., etc., où on force le sujet à essayer d'expliciter ce qu'il a fait pour essayer de comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils ont envoyé le même questionnaire aussi un an après, pour voir aussi comment les gens finalement revenaient sur cette expérience et essayer de comprendre
à froid,
et puis aussi évidemment de voir les traces qu'elles avaient laissées, et éventuellement les changements dans le comportement ou dans la gestion des émotions.
Oh bah ils ont tous fait le Vietnam. Ah bah c'est tout ça.
Voilà. Alors, tu fais bien, Ilias, de parler du Vietnam, parce que donc, les expériences, elles commencent donc entre 60 et 63. Ouais. Donc, les Américains ne sont pas encore au Vietnam, et on a dit que c'était venu dans la tête de Milgram à propos de la Seconde Guerre mondiale. Sauf qu'à partir de 65, donc, les Américains débarquent au Vietnam. Et que, bah, comme voilà, on le sait, cette guerre, comme aucune des guerres n'est propre, hein,
non,
et que voilà, il y a eu plutôt pas mal de massacres, du napalm sur les populations civiles, des villages massacrés, etc. Et à la fin de sa carrière en 74, Milgram fait un bouquin qui fait la synthèse en fait de cette expérience et de toutes les variantes qu'il a pu mettre au point. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce bouquin, donc il y a toute une première partie dans laquelle il y a un retour sur l'expérience et une réflexion profonde sur le rôle de l'obéissance dans les sociétés, avec un truc qui est un peu troublant, qui est que en fait, les sociétés, elles fonctionnent aussi parce que globalement, les gens obéissent aux normes en vigueur et aux autorités, aux institutions. Enfin, à l'inverse, on voit bien qu'on aurait vachement de mal à vivre dans une société dans laquelle, en fait, il n'y aurait pas d'obéissance. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui pourrait fonctionner. Enfin, comment vous voulez prendre le métro si les gens n'obéissent pas de manière globale ?
C'est tout qui va conduire le métro.
Ouais.
Et puis, qui va creuser ? Ça pose beaucoup de questions.
Voilà, les gens vont s'asseoir par terre. Enfin, bon, ça va être un bordel.
Ça arrive déjà. Mais bon.
Et donc, voilà, juste pour terminer, en fait, ce qui est amusant, c'est que quand Milgram écrit son bouquin en 74, où d'abord, bon, il tire toutes les leçons en termes de ce que ça raconte, de l'obéissance dans nos sociétés, etc. En 74, on a eu quasiment toute la guerre du Vietnam. Et enfin, en tout cas, la présence américaine là-bas. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a eu des massacres aussi de gens ordinaires, enfin d'Américains moyens, etc. On les appelait les baby killers, quoi, quand ils revenaient, ces jeunes qui étaient partis faire la guerre au Vietnam, enfin les opposants à la guerre. Et donc, il ose dire que ça n'est pas du tout le seul problème de l'Allemagne nazie et d'un contexte culturel, et que ce type d'expérience peut renseigner en fait sur le fait aussi que finalement n'importe quel homme est concerné. Et d'ailleurs, de jeunes Américains ont aussi été pris dans ces massacres. On pense à Mailin, village massacré par une unité de l'armée américaine. Et ça donne tout d'un coup un tour extrêmement subversif à cette expérience pour la société américaine des années 70, parce que l'idée, c'est que les monstres ne sont pas à l'extérieur, les monstres ne sont pas des étrangers, les monstres en fait sont en chacun de nous à partir du moment où on est dans un contexte et dans un ensemble d'architectures de croyances qui rend possible la réalisation d'actions qui nous paraissent spontanément et individuellement totalement folles, quoi, totalement horribles, d'infliger de la souffrance à quelqu'un, mais pris dans un contexte. Voilà, c'est assez flippant. Il y a plus de la moitié des sujets qui infligent des décharges électriques manifestement violentes et dangereuses à d'autres sujets. Voilà, donc on a commencé avec une question qui est, est-ce que parfois on a peur de perdre les pédales? On termine avec cette question aussi, c'est que finalement les monstres sont en nous, les monstres ne sont pas en dehors de l'humanité, mais ce que révèle cette expérience de Milgram, c'est qu'en fait, l'inhumain, c'est ce qu'il y a de plus proche de l'humain, quoi. Et que, faut faire
Il y a une partie de monstre en chacun.
Voilà, faut faire un peu gaffe parce que on n'est pas à l'abri de tomber du côté obscur de la force, quoi. Wow.
Très très cool.
C'était passionnant.
C'est quand même badant ta conclusion, quoi.
C'est pas le but un peu.
Si je peux essayer de. Alors déjà, merci beaucoup, c'était génial.
Ouais, c'était super intéressant. Ouais.
Si je peux essayer de mettre un petit peu de positif là-dedans, si je reprends, alors je ne les ai plus en tête malheureusement, mais les statistiques sur les effets de l'influence des groupes, en fait, ça valorise pour moi d'autant plus le fait d'exprimer ses propres idées, parce qu'en fait, je vous encourage vraiment à le réécouter l'épisode, désolé, parce que je n'ai plus les statistiques en tête, mais. Il y a des expériences qui montrent très clairement qu'à partir du moment où il y a un deuxième groupe qui est créé, ça encourage d'autant plus les autres personnes à sortir de la pensée majeure, en tout cas du courant majeur. Et donc, ça veut dire qu'on peut très facilement combattre ces effets d'enrôlement, d'entraînement, etc. Juste en exprimant son désaccord, et ça déséquilibre déjà, enfin, ça rééquilibre très largement les statistiques de, en tout cas, le pouvoir de l'autorité. Donc si je peux essayer de mettre un petit côté positif, si vous voyez ce genre de truc, juste le fait de râler, de gueuler, de vous exprimer, ça rééquilibre très 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 largement c'est des pourcentages à deux chiffres. J'ai fait trois avec mes doigts, mais ça ne se voit pas à l'audio. Ça, c'est très très fort. Mais en tout cas, un peu.
Vas-y. Juste rebondir, du coup, ta question sur le taser, c'est plusieurs dizaines de milliers de volts.
Ah ouais. Oula,
et tu peux acheter un taser légal de 2 millions de volts sur un site que je ne vais pas donner à 44,90€.
Mais tu tues la personne, tu la crames.
2 millions de volts, c'est légal. D'accord. Arme électrique de self-defense. Voilà, là, c'est plus.
Pour cuire tes nems, Ilias ?
Oui, parce que j'ai fait des nems ce soir. Et... Alors, petite info, quand vous les mettez au four, ne les laissez pas tout seuls parce que.
Ils sont un peu secs.
Ouais, un peu secs. C'est une autre question. Mais deuxième. Oui, je suis en mode papa ce soir. Alors, je ne suis pas du tout papa, mais bon. Ne prenez pas des armes dont vous ne sauriez pas vous servir, même pour du self-defense, parce que ça pourrait se retourner contre vous.
Oui.
Voilà.
Et manger 5 fruits et légumes par jour.
Mangerbouger.fr.
Et avant de passer à les chouchous, petit rebond encore sur l'expérience de Milgram. Il y a eu plusieurs personnes qui ont essayé de se ressaisir de cette expérience. Il y a une émission de télé de manière très récente, il y a une 10-15 d'années peut-être, qui a essayé une fausse émission de télé, qui a essayé de reproduire l'expérience de Milgram, où on se rend compte que la question initiale c'était est-ce qu'aujourd'hui c'est encore d'actualité, ou est-ce que c'était juste dans les années 50 et 60 que les gens étaient violents. Je vous conseille de le regarder, c'est très très beau dans le sens où on voit certains débriefs avec les candidats, mais spoiler, non, c'était pas que dans les années 50 et 60. Ouais. Voilà. Et oui, tu avais un film à conseiller aussi.
Oui, alors en fait, il y a un film d'Henri Verneuil qui s'appelle I comme Icare de 1979 avec Yves Montand, cinéma de papa ou de grand-papa, qui, c'est très étrange. Ce film raconte comment est-ce que la France bascule dans une forme de démocratie douce, de tyrannie. C'est une dystopie politique, comme on aime bien, genre un peu Hunger Games, mais avec Yves Montand.
L'image est belle.
Voilà. Et en fait, à un moment donné, le film pète un câble, et parce que on passe tout d'un coup 45 minutes, ce qui est quand même presque la moitié du film, à refaire l'expérience de Milgram. Il y a des extraits sur YouTube où on voit justement la reconstitution de cette expérience, mais sinon ça se trouve assez facilement. Le film en tant que film n'est pas forcément un film éternel,
c'est pas Hunger Games quoi,
il y a pas Jennifer Lawrence quoi, donc en revanche la représentation de cette expérience est assez flippante. On comprend très très bien le dispositif, c'est amusant parce qu'on est en 79 et donc on voit les tout premiers immeubles du quartier de la Défense qui font un effet de modernité incroyable. Les extérieurs sont tournés là-bas et on a vraiment du coup l'impression de pas être en France, mais dans une sorte de pays de dystopique,
un peu futuriste
et un peu un peu comme ça, enfin dictatorial ou avec des immeubles très modernes, très droits. Enfin, c'est franchement, ça vaut le détour.
Genre, c'est la défense maintenant, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Mais franchement, si vous tombez sur ce film, voilà, vous passerez pas une mauvaise soirée, même si c'est pas du cinéma de fou. Mais ce que le film exprime, et en tout cas ce dont il est le symbole, c'est assez génial.
Ah bah c'est okay, cool. Largement noté.
Bah merci beaucoup. Ouais. Bah du coup, le pourquoi dit chouchou.
Pourquoi?
Mais pourquoi tu fais ça, Jack?
Bah alors, pourquoi, bon Dieu?
Pourquoi quoi?
Bah pourquoi t'as fait ça, quoi?
Pourquoi tu dis ça?
Pourquoi?
Pourquoi faire?
Pourquoi je ne suis pas en plus?
Vous savez très bien pourquoi.
Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il y a bam 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 et tac.
Ah, lui de Funès.
Il y a combien de pourquoi dans ce générique?
Beaucoup. Il faudra qu'on compte.
Oui, ça c'est vrai.
Donc juste avant de commencer, petit contexte. Ce week-end, j'étais à un mariage d'un couple d'amis et je veux déjà les féliciter. Donc Benoît et Eugé, Mazel Tov.
Félicitations.
Les petites galinettes cendrées.
N'importe quoi. Voilà. Je cherche une Clio en bon état.
Du coup, qui dit mariage dit...
Oh putain, pièce montée, viande d'honneur.
Alliance.
Apéro.
Église, curé,
la danse du carême.
Après.
Nuit de noces.
Oui, et la lune de la nuit de noces, c'est...
Les épingles à retirer pour la coiffure.
La lune de miel.
La première fois
Mais non, la nuit de noces et la lune de miel.
C'est pas ça.
Ah, pas du tout. La nuit de noces, c'est la consommation du mariage.
Oui, mais c'est juste qui arrive souvent à la lune. Donc, la lune de miel.
Vas-y.
Mais pourquoi? Pourquoi la lune de miel? Pourquoi le miel? Pourquoi la lune? Tant de questions.
Ah ben, c'est une très belle question.
Je vais essayer d'y répondre. Donc déjà, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on dit lune de miel?
Bah moi, je pensais que t'allais le dire, mais après...
Parce qu'on part la nuit après le mariage et que ça va être doux comme le miel?
Non.
Oh putain, mais parce que c'est doux? C'est un... Enfin, à l'époque, c'était pas être doux du tout. Hein.
Non, bon. Il n'y a pas de lien direct avec les abeilles, ni le diabète, ni l'arrêt du cul. Mais cette expression...
Quoi?
Ah, la lune.
Ça, ça passe tout seul hein, quand c'est dit entre abeilles.
Oh là là, t'as cru que ça allait passer les parties.
Cette expression date d'il y a super longtemps, mais genre il y a très 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 longtemps.
genre jadis carrément.
Ouais, mais c'était en Mésopotamie. À Babylone.
Ah oui, d'accord, c'est pas une époque, la Mésopotamie.
Non, mais déjà, ça n'existe plus. Donc oui, déjà, pour vous dire que c'était il y a 4000 ans. Merde.
Okay.
À cette époque, le père de la mariée avait comme tradition d'offrir à son genre autant de bière qu'il en voulait pendant le premier mois.
Son gendre.
Gendre. J'ai oublié le thé. Gendre.
Autant de bière.
Autant de bière qu'il en voulait pendant le premier
mais
mois.
Mais c'est le bon plan de se marier, dis donc.
Ouais, c'est un open bar pendant un mois, quoi. Et je vais pas faire ma blague.
Non, parce que là, c'est... Non.
Bref, donc...
Mais t'en as envie, c'est
oui, ça. Oui, j'en ai...
Si on a eu la même idée en même temps, je te jure que
non,
je
peux
pas.
Non. On sait donc plus ou moins d'où vient l'idée de pourquoi on part en lune de miel, généralement au premier mois du mariage.
Ah.
Mais vous allez me demander pourquoi alors la lune?
Mais pourquoi la lune?
Exactement, et pourquoi le miel?
Parce que, alors la lune, parce qu'on part un mois, du coup.
Ah oui, oh,
bien joué.
Oh, pas mal.
Bien joué, petit scarabée.
Merci.
Tu m'as écrit ça aussi.
Donc, la bière était tout simplement faite à base de miel, donc d'où le miel.
Ah, un peu style hydromel.
Donc on pourrait appeler ça la lune de bière.
Oui, oui. Mais c'était du miel fermenté, un truc oui, dans le genre, donc voilà. Et comme à l'époque on calculait le temps en fonction de la lune, comme tu as dit Camille, bah donc c'était le calendrier lunaire, donc on appelait ça la lune de miel. Il y a une autre théorie, un peu moins répandue.
Quelle est ta source déjà?
Sur laquelle
rigole.
Un petit tour du nom de Winnie,
l'huile de miel
sur mariage.com. Non, elle est un peu moins répandue, mais ça tient la route aussi. Donc celle-ci remonte au temps des pharaons.
C'était donc, quand les pharaons?
Quasiment à la même période. et vous allez voir, c'est un peu le même délire. Les nouveaux mariés devaient boire une boisson à base de miel
jusque-là,
pendant
cohérent.
Un mois.
Ok.
Et c'était pareil, supposé. Voilà, c'était la même chose.
Diabète, quoi, pour la ah, mais ah, non, par contre, j'avoue, ça se tient pour la fertilité.
Ce que j'allais dire, c'était supposé assurer le bonheur, la prospérité et la fertilité.
Par contre, ils devaient coller sa race.
Ouais. Et il se basait donc sur le calendrier lunaire. Et donc on appelait le premier mois la lune de miel.
C'est magnifique, c'est très beau.
C'est, voilà.
Maintenant je m'imagine des jeunes mariés qui doivent être collants de partout avec leur baraque qui colle et tout. Genre, oh, mon Dieu.
Et du coup, si Benoît nous écoute, ça veut dire qu'il a le droit d'exiger des bières à son beau-père pendant un mois.
Félicitations, tu as gagné ça.
C'est peut-être pas le meilleur moyen de se faire accepter par la famille. Je lâche ça comme ça, mais je connais pas Benoît d'ailleurs. Félicitations, Benoît et Eugé. Cool, bah merci beaucoup. J'aime poser la question et du coup j'ai la réponse. Parfait. Du coup, je pense que je vais enchaîner.
Allez.
Vous lui donnez ces médicaments ?
Oui.
Médicaments bidons faits à partir de noyaux d'abricot.
Là, le corps, c'est dans la tête. Hein. La maladie, ça commence dans la tête, ça se guérit dans la tête aussi.
Vous devriez pas mélanger l'alcool et les médicaments.
Mais pourquoi pas ?
Eh oui, on finit par un autre pourquoi.
C'était quoi la musique ?
Bah, à ton avis ?
Placebo.
Ah placebo, oui, voilà. C'est pour ça, ça me disait quelque chose. Bien joué.
C'était placebo. Donc, alors, effet placebo.
Je suis con.
Non, mais c'était tu
naïf,
sais quoi
naïf,
tu
es, non, que je suis naïf.
Tu es beau dans ton innocence, voilà. Sur ce, donc, effet placebo.
C'est
à la
plus
base,
rapide en... de dire con.
Oh, mais laisse-moi parler.
Non, mais par exemple, dans une salle de classe, on peut pas dire, moi, ça me va bien. Je vais leur dire ça, vous êtes beau dans votre innocence.
Et après, en salle des profs, qu'ils étaient cons.
C'est ça.
Bon, toujours pas fait mon intro. Donc, à la base, je pensais parler de l'homéopathie, mais... même si c'est un sujet extrêmement intéressant, je pense qu'il est assez dense pour en parler, ben, un sujet en tant que tel, et même s'il y a des, on va dire, des sujets qui se recroisent avec le placebo, je préfère traiter l'homéopathie à part, donc j'en parlerai une autre fois.
Surtout que t'as pas envie de te faire troller, quoi.
Ah non, alors j'assume entièrement sur l'homéopathie, sans aucun problème, mais je voulais au moins qu'on puisse bien comprendre ce que c'est que le placebo avant de parler de l'homéopathie. Donc, on connaît le placebo par le milieu médical principalement, mais... ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'applique pas ça. On fait encore beaucoup d'études sur les placebos et sur plein d'autres choses qui sont liées au placebo. Les chiffres sont généralement plutôt compliqués et il y a beaucoup d'études en cours. Donc moi, j'ai choisi de ne pas trop m'appuyer sur les chiffres, même s'il y en a qui sont concluants, etc. Mais parce que je pense que ce n'est pas la chose la plus importante, enfin la plus intéressante à l'heure actuelle. Surtout que, en fait, vu que souvent les études sont très spécifiques et à certaines pathologies, ça ne permet pas de tirer une conclusion sur le placebo de manière générale. Sur ce, placebo, commençons. Placebo, est-ce que quelqu'un peut me donner la signification de placebo ? Je pensais à Camille, par exemple.
Parce que je suis assise au premier rang tout de suite, ça y est ?
Non, parce que tu es la seule qui a fait plus d'un an de latin.
Oui, mais non.
Ça vient de placebus.
Oui, c'est ça.
Ça veut dire
ça ne vient pas de placenta, du coup, je suppose.
Alors, putain, tu m'as fait chier pendant des années avec ton putain de latin pour me sortir placenta. Non, alors ça voudrait dire, de ce que j'ai pu trouver, je plairais. Parce qu'en fait, ça, initialement, c'était pour parler d'une prescription de complaisance. Donc, une prescription de complaisance, soit par la force des choses, soit par flemme ou par autre chose. Et donc, c'était pour voilà, un patient qui venait, qui voulait absolument qu'on lui donne quelque chose. On lui donnait, genre, tiens, placebo, ça lui fera plaisir, mais c'est pas un médicament en tant que tel. Avant de vous donner une définition un peu plus précise, je vous parlais des prescriptions par la force des choses ou par flemme. Je vais prendre deux cas qui sont effectivement des cas qui ont été vus mille et une fois.
Par flemme ?
Ouais, tu vas comprendre. Même si c'est des cas où beaucoup, enfin, on peut facilement retrouver des sources qui disent « Ah, le premier cas, c'était... » justement, c'est dans le cas numéro 2. Mais c'était genre Seconde Guerre mondiale, le docteur Higmund de machin et tout. Non, en fait, ça a dû se procurer... Enfin, ça a dû arriver des milliers ou des millions de fois. Donc, on va pas citer de personne. Mais donc, cas numéro 1, un patient va chez le médecin. Il s'attend à ce qu'on lui prescrive un médicament pour aller mieux, parce que c'est ce que font les médecins normalement, dans la pensée du patient. Le médecin lui prescrit de la vitamine C et le patient repart rassuré et sent un regain d'énergie dès le lendemain puisqu'il a pris ses médicaments et il se sent content. Sauf que, alors là aussi, attention grosse pincette, et putain je crois que j'ai lu limite plus de sources pour cette demi-phrase que pour tout le reste. Pour la vitamine C, il y a des récentes études qui montrent qu'il y a très très peu de vraies carences en vitamine C. Parce que le scorbut, c'était autant des pirates, ouais. Et ouais, très très peu, même si ça peut exister. Et la supplémentation, donc le fait d'avoir un surplus de vitamine C, a relativement peu d'effet, tout du moins sur l'énergie et le tonus, même si ça peut avoir, d'après encore des études très récentes, des effets sur le système immunitaire et d'autres choses. Mais ça, ce n'est pas le sujet. C'est juste que pour avoir la pêche, c'est pas parce que tu as pris une vitamine C que tu vas pouvoir tenir ta soirée jusqu'à 6h du matin.
Il n'y a pas de vitamine C.
Il y a
dans
autre chose
pêche.
Pour ça, ouais.
Oui, ça, oui, effectivement.
Pardon.
Mais c'est très juste, très juste. Cas numéro 2, pendant la guerre, des soignants pouvaient manquer de médicaments, des soldats qui étaient blessés, etc. Donc, au lieu d'injecter des antidouleurs parce qu'il n'y en avait plus, certains ont dû faire des injections de solutions salines, c'est bêtement de l'eau salée, même plus. Et en fait, ils se sont aperçus que les soldats blessés qui recevaient ces injections ressentaient beaucoup moins la douleur. Ils se sentaient soulagés, mais réellement soulagés. Mmh. Et honnêtement, autant dire qu'un soldat qui s'est fait couper une jambe ou qui s'est pris 4 balles...
C'est pas de l'eau salée qui va...
Ouais, c'est ça. Clairement, l'eau salée n'a aucun effet et puis il va pas s'amuser à faire semblant pour faire plaisir à son médecin. Aucune chance. Mais on a vu qu'il y avait en tout cas un effet qui pouvait être ressenti et vu très clairement. Donc, si je dois définir rapidement le placebo, en fait, c'est l'écart qu'on va avoir entre l'effet réel d'une substance ou d'un procédé, j'y reviendrai, et son effet constaté. Typiquement, si tu prends un verre de, je sais pas, une capsule de vitamine C et que 10 minutes après, tu as une pêche de ouf, bah, la vitamine C, ça peut te faire du bien à l'organisme, mais clairement pas à ce point-là. Donc, ce qui vient en surplus de l'effet réel de la vitamine C, c'est ça l'effet placebo.
Ouais.
Enfin, vous vous souvenez, hein, quand on était petit, c'était des bisous magiques de maman. Hein.
Mmh. Oui, alors ça, moi, j'avais une autre théorie, mais qui est un peu un précédent sujet également. C'est sur ce qu'on appelle le gate control. Je t'enverrai l'épisode. mais oui, le bisou magique, alors j'en parle un peu plus tard, mais effectivement, dans la prise en charge, ça compte énormément dans l'effet du placebo.
T'as aussi le verre d'eau avec un sucre qu'on te donnait à l'infirmerie.
Ouais, ou à un autre niveau, alors ça pareil, ouais. Vous grillez toutes mes étapes. À un autre niveau, les traitements pour le hockey, il y a beaucoup de placebo qui comptent dedans. Voilà. Alors le placebo, il faut savoir qu'il peut être positif, donc soit l'action va avoir plus d'effets que prévu ou un meilleur effet, donc on parle de placebo, c'est celui qu'on connaît le plus. Soit l'écart peut être négatif, donc soit le médicament qu'on va prendre va avoir moins d'effet ou l'effet sera négatif, et dans ce cas-là, on parle de nocebo.
Nocebo.
Voilà. Nocebo.
Rien à voir avec une célèbre marque de maquillage.
Sodebo, non.
Sodebo.
Je connais pas.
Je connais pas non plus.
Nocibé.
Non, mais je vous laisse
Nocibé.
Chercher.
Ah, Nocibé.
Ah, pardon, excuse-moi, j'ai trop
de Ah, non, mais je ne me maquille pas, désolé. Pareil, alors là, je vous donne quelques définitions juste pour qu'on puisse, enfin, que vous puissiez avoir les termes. On parle aussi de placebo pur et impur. Donc le placebo pur, en fait, c'est une substance, c'est un produit qui n'aura aucune substance active. Donc de base, c'est censé rien faire, genre de l'eau salée ou juste un comprimé de farine ou globalement ça va rien. À part des gâteaux dans ton bide, ça fera rien quoi. Ou de la crème hydratante. On peut faire passer une crème antidouleur, enfin une crème hydratante pour de la crème antidouleur. Globalement, ça change rien.
Mais qui fait ça ?
Et plein d'expériences. Et un placebo impur, donc c'est une substance qui va être active, mais qui est sans lien avec la pathologie à traiter. Donc, par exemple, quand on te file de la vitamine C parce que tu t'es fait couper la jambe, clairement, si ça te fait du bien, c'est pas grâce à la vitamine C, quoi. Donc, dans les deux cas précédents, un truc qui me tient un petit peu à cœur, parce que je sais pas si vous avez remarqué, il y a plein de trucs qui me tiennent à cœur dans mes sujets, alors que ça devrait pas. Mais en fait, on utilise beaucoup un abus de langage dans le terme de placebo. En fait, on devrait parler de l'effet placebo, mais pas de placebo. Généralement, quand on dit « tiens, j'ai pris un placebo », le placebo, il est uniquement contextuel et lié à un effet. Donc, c'est parce qu'on a mis en œuvre une mécanique d'effet placebo que tu filerais une pilule ou une serviette de table, bah ça a un effet, quoi. Mais c'est parce qu'on a mis en place le contexte qui permet de révéler cet effet. Donc, comment marche cet effet placebo ? Il y a deux mécaniques qui sont majeures et extrêmement puissantes. Le conditionnement. Très simplement, l'effet placebo, en fait, c'est la réponse à une attente. Donc, on a une maladie ou des symptômes particuliers qui sont compris et ressentis. Et donc, on s'attend à ce qu'en allant voir le médecin, bah, on aille mieux grâce à ce qu'il nous donne. Ouais. Très simplement. Donc, le placebo, le produit n'est pas forcément censé avoir d'effet sur le corps, mais c'est le conditionnement qui fait réagir le cerveau. Donc, autant pour le placebo que pour le nocebo, pardon, on ne peut pas avoir d'effet. Enfin, le placebo et le nocebo ne peuvent pas avoir d'effet sur ce dont on n'a pas conscience. Donc, c'est uniquement pour les pathologies ou les douleurs dont on a conscience. Donc, si on a une migraine et qu'on a mal à la tête, ce produit peut me faire du bien. Si tu as, une malformation de quelque chose et que tu ne te l'a jamais dit, et bah, le placebo, il ne fera rien parce que tu n'en as pas conscience. En fait, c'est ton cerveau qui travaille là-dessus. Donc, grâce à un vrai conditionnement, on peut aussi profiter de l'effet placebo, mais avec des vrais médicaments. Donc, typiquement, quand on prend un médicament contre le mal de tête et qu'on se sent bien au bout d'une quinzaine de minutes, et bah, c'est grâce à quoi ? Grâce à l'effet placebo. Parce qu'en fait, normalement, ça fait effet au bout d'une heure.
Ah bon ?
Bah ouais, au bout de 15 minutes, le cachet il est toujours dans ton bide et il fait des tours, quoi. Il est en train de se dissoudre.
Okay.
Et c'est parce que tu sais tiens, ce médicament, j'en ai déjà pris plein de fois, ça me fait du bien à la tête, et donc au bout de 15 minutes, ah, putain, ça va mieux. En fait, non, en vrai, la substance chimique qui va avoir un effet sur toi, elle va marcher avant. D'accord. Mais l'effet placebo, c'est aussi de la chimie, mais c'est ton cerveau qui a compris que, ok, j'ai pris un médicament contre le mal ça de crâne, donc qui relâche de la dopamine et d'autres hormones qui font du bien. Pareil pour le placebo du café matinal. Hop, on a à peine fini notre tasse de café que « Ah oh putain, ça va tellement mieux, ça y est, je suis en forme et tout. » Non, mais la caféine, elle n'a pas encore fait effet. Par contre, on a détecté scientifiquement que Alors déjà, le fait que ça fasse effet plus tôt, c'est effectivement un placebo, mais on pouvait aussi faire un placebo de caféine, donc donner une tasse qui ressemble à du café à quelqu'un, mais qui n'en est pas, qui
c'est
contient...
C'est du déca.
Alors dans le déca, il y a quand même de la caféine, mais quelque chose qui ne contient aucune caféine.
Le chicorée.
Exactement, le cerveau va réagir exactement pareil et libérer les mêmes hormones, elles vont se fixer au même endroit, donc avoir exactement le même effet que la caféine, mais il n'y en a aucune dans la boisson.
Oui, mais du coup... C'est pas vraiment, enfin, c'est, j'arrive pas à vraiment expliquer. C'est le placebo. Enfin,
c'est le fait
si
de...
ton cerveau du coup il enlève, enfin il sort.
Ouais.
Ce que tu dis la dopamine tout ça là, c'est que ça a fonctionné.
Enfin, oui, bien sûr. Ah non, le placebo en fait ça veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Ça veut juste dire que à partir d'une substance qui n'est pas censée avoir exactement ces effets là, en fait il y a des effets qui arrivent quand même. Et mais c'est ça qui est ouf.
Si je puis me permettre, c'est pas lié que... Enfin, l'effet placebo, pour moi, ça, c'est pas forcément que lié au fait de consommer quelque chose qui est censé te faire aller mieux. Par exemple, tu vois, moi, je vois, quand j'étais hospitalière à Lourdes, bon, des miracles à Lourdes, à mon avis, il y en a quand même pas des centaines et des centaines. Le nombre de personnes qui vont en tant que malades à Lourdes et qui sont convaincues réellement d'aller mieux en revenant, pour moi, ça, c'est de l'effet placebo, parce que c'est des gens... qui s'investissent tellement émotionnellement là-dedans que ça joue en fait sur le physique.
C'est exactement la ligne juste après.
Ah mon dieu.
Non, là, tu as tout à fait raison. Déjà, il y a quelque chose que j'ai pas précisé, mais parce que je crois que je le précise un petit peu après. Mais il y a pour rebondir sur ce que tu dis, il y a donc le premier mécanisme qui a énormément d'effets, donc c'est le conditionnement. Je suis en train de faire n'importe quoi. Oui, donc le conditionnement. Et le deuxième, en fait, c'est la capacité de projection et d'imagination. Donc typiquement, quand on va être capable d'anticiper cet effet, enfin l'effet que va avoir soit la substance qu'on prend, soit l'expérience à laquelle on va participer, le fait d'y croire assez fort, ça va pouvoir avoir des effets sur notre corps. Pas tous les effets de la Terre, je me trompe, mais je crois qu'il n'y a pas de jambes qui ont repoussé à Lourdes.
Je pense pas, mais
Ça me fait énormément rire que t'aies réfléchi, sérieusement.
Non, mais je me demande s'il n'y a pas eu un des miracles, parce qu'il y en a eu, je vous avais déjà fait un sujet sur Lourdes.
Sont relevés.
Non, mais il y a eu un des miracles, je crois que c'était un bout d'os qui s'était reconstitué, effectivement. Mais là, t'es dans le miracle d'il y a très longtemps.
Je vais pas dire de bêtises, mais d'après mes recherches, je crois que typiquement, les os qui repoussent, non.
C'est un miracle, c'est bien comme ça que ça a été considéré comme miracle. Après, on n'y croit pas.
Mais sait-on jamais.
Ouais. Mais en tout cas, oui, non. Moi, j'ai vu beaucoup de gens repartir dans le train du retour. Ces gens-là, ils avaient toujours leur cancer. Hein. On avait passé que 15 jours à Lourdes. Ils étaient toujours gravement malades. Mais tu les voyais, tu étais là, je vais mieux. Ah, je suis sûr. Ça a fonctionné, je suis sûr, ça va mieux.
Plus on a une bonne capacité d'imagination et de projection, plus on va être sensible au placebo et plus l'effet sera fort. Et donc c'est pour ça que des personnes comme les enfants vont être très réceptifs parce qu'ils ont une imagination qui est ouf. Et plus on est sceptique, moins l'effet va être puissant, voire ça va créer du nocebo parce que si tu prends justement, je prends toujours cet exemple parce que c'est le plus simple, mais si on prend un médicament pour le mal de crâne mais qu'en fait on n'y croit pas du tout, peut-être que tu vas garder ton mal de crâne alors que tu as un vrai produit chimique dans toi qui est censé faire effet, mais ton esprit combat tellement fort ce truc-là que ça va réduire cet effet. Pareil, si tu as une foi qui est très très forte, ça peut t'aider à décupler les effets de un signe de croix avec de l'eau de naturelle, des volcans sur ta tête. Bon bref, je sais pas comment ça se passe à Lourdes, je sais pas.
Il y a pas de volcan.
Il y a de l'eau naturelle, je sais pas. Oui, c'est de l'eau de source, pardon. Donc là, on a l'effet placebo, nocebo, on voit vite fait comment ça peut se passer, mais comment on peut augmenter l'effet? Alors déjà, on peut avoir un effet qui va être plus fort si on a déjà été traité avec un principe actif. Donc si on a déjà connu la vraie sensation d'un placebo. Par exemple, ce que je disais tout à l'heure pour le café ou le truc pour mal de crâne, très clairement, après une grosse gold up, tu prends un truc pour le crâne, ça va mieux au bout de 15-20 minutes, alors que chimiquement, il s'est pas passé des trucs de ouf. Mais ton esprit sait que... c'est pas si souvent, je le jure. Généralement, ça va mieux. Et donc, ton effet est amélioré parce que tu l'as déjà vécu et tu sais ce que ça peut faire. Pour ça, je vais prendre aussi un exemple qui a été une expérience qui a été faite aux États-Unis avec des malades qui avaient la maladie de Parkinson.
Dis-moi qu'il y a des décharges électriques.
Ah, c'est vrai que la maladie de Parkinson, c'est horrible. Non, mais c'est des personnes, on leur dit, on va tester un nouveau médicament. Donc, des personnes qui prennent un traitement régulier. On leur dit, on va tester quelque chose de nouveau et c'est censé arrêter les tremblements et c'est censé vous permettre de remarcher plus facilement, plus simplement, etc.
C'est pas le truc illégal récemment, là?
Je crois pas, c'est non. un peu plus vieux. Okay. Enfin, en tout cas, celle dont je parle, c'est un peu plus vieux. Et en fait, voilà, il y a des patients qui ont pris un pur placebo, genre une gélule de rien entre guillemets, et voilà, ou d'eau salée, et qui après, en fait, se sont sentis beaucoup mieux et ont pu marcher sans tremblement et sans douleur, etc. Et après, on les a fait asseoir et on leur a dit, bah voilà, pour être tout à fait sincère, parce que comme on disait tout à l'heure, c'est un peu l'éthique et la déontologie qui demande d'être transparent sur l'exercice. On a dit, bah voilà, en fait, on vous a fait prendre un placebo. Et à tel mec, il dit, putain, c'est ouf, parce que je me suis senti réellement mieux pendant une heure et j'ai pu marcher, j'ai pu machin. Et à partir du moment où on le révèle, pouf, ça peut le faire disparaître. Deuxième effet qui permet deuxième mécanisme qui permet d'augmenter l'effet, c'est la qualité de la prise en charge. Tu parlais tout à l'heure, Thibaut, du bisou magique. En fait, on a remarqué que dans l'efficacité du placebo, de l'effet placebo, la qualité de la prise en charge, la façon dont on était accueilli par les... je parle uniquement du côté médical parce que c'est le plus facile quand on parle de placebo, mais la façon dont on va être accueilli par son médecin, son personnel de santé, etc., va énormément jouer sur la façon dont on va recevoir le traitement et c'est l'effet clair. Dont vont avoir les médicaments. Alors, la qualité de la prise en charge, ça veut pas dire être accueilli gentiment, etc., mais c'est juste une prise en charge qui est adaptée à nos attentes.
Et puis avoir des magazines récents dans la salle d'attente quand même, parce qu'à chaque
forcément.
Fois, on se tape que des vieux magazines.
Moi, j'aime bien les vieux Picsou.
Oui, mais tu sais, je veux dire, le gala.
On va pas tous voir le pédiatre, Ilias. Ouais,
parce que moi, c'est plutôt c'est que pour je mes enfants sur, sur des galas de mars 2014, tu vois, c'est plutôt ça le problème.
Ouais, mais du coup, le problème, c'est le gala ou le 2014.
C'est un peu ouais. les deux, tu vois.
Ouais, voilà, l'accueil peut être très froid, mais très pro, et du coup, ça nous va. Et c'est ce qui est ouf, c'est que, en fait, et c'est compréhensible. Si on va voir un médecin, qu'on lui exprime notre problème, et qu'il a l'air de prendre ça un peu par-dessus la jambe, genre. Ouais, il nous écoute pas trop, puis il pianote un truc sur son ordi, il te sort une ordonnance, bah pff, prenez ça, puis ça ira mieux. Et du coup, tu vas te dire, genre, en fait, il me file un truc au pif, il s'en fout, ça va rien me faire. Alors que si on dit très précisément quelqu'un qui t'écoute attentivement, tiens, vous avez fait quand, enfin, vous avez fait quoi, ça vous est déjà arrivé, est-ce que vous avez des antécédents dans la famille, qui te donne un médicament, qui dit précisément, voilà, il faut en prendre matin, midi et soir, toutes les deux heures maximum, si vous voulez, vous pouvez cumuler avec ça, donc qui précise bien, etc. Tu vas dire, ok, c'est un truc qui est sérieux.
Et c'est ce qu'il fait.
Voilà,
c'est ce qu'il dit.
Exactement. Et ça, dans ma conclusion, je vous en reparlerai, mais je trouve que c'est un peu le côté magique et j'aime bien toujours voir le côté un peu beau et magique qu'on peut avoir. Une des troisièmes possibilités pour augmenter l'effet placebo, il y en a d'autres, mais je me suis principalement appuyé sur celle-ci, c'est le protocole. En fait, ce qui est rigolo, c'est que plus le procédé est impressionnant, plus l'effet placebo sera puissant.
Ah, oui.
Donc là, on parle principalement des effets placebo pour les médicaments, les pilules, etc. Mais en fait, ça peut être pour absolument tout. Ça peut être pour les manipulations, ça peut être pour la chirurgie. Oui, c'est tout à fait possible. On peut faire de la chirurgie placebo. Et je vais vous en parler d'ailleurs,
oui,
mais donc rapide.
Plus d'infos.
Ouais, et donc très rapidement, donc ça, plus ça sera puissant en positif comme en négatif, parce que n'oublions pas que je parle que de placebo, mais quand je dis placebo, ça englobe placebo et nocebo. Mais donc par exemple, une pilule va avoir potentiellement un effet placebo moins important qu'un médicament en intraveineuse ou qu'une opération chirurgicale. De la même façon que plus on a remarqué que plus une pilule allait être grosse, plus l'effet placebo allait être important.
Bon.
Alors dans la limite
la taille de la bouche.
Ouais, la taille de la bouche, bien sûr. Si on vous file un cachet à faire fondre pendant 72 heures, non, c'est des conneries. Mais non, voilà, donc la taille
ça
de la pilule,
de mammouth.
par exemple. Voilà, la taille de la pilule, la couleur, par exemple, donc les médicaments avec une couleur rouge semblent avoir plus d'effet. Donc comme ça, vous comprenez.
Les bicolores, là.
Et ben, comme ça,
les rouges et jaunes et les rouges et blancs.
Vous comprenez pourquoi Doliprane a sorti une nouvelle capsule qui était un peu différente, qui ne pouvait pas s'ouvrir,
oui,
etc.
Ouais.
Alors que c'est kiff bourriquette. Voilà. Et donc, pour le placebo chirurgie, des expériences qui ont été faites sur des opérations, j'ai plus le nom malheureusement, qui sont faites sur le genou. Donc il y en a plusieurs, mais je cite celle-là parce que pareil, elle est extrêmement pratique. Le principe de l'opération, c'était, voilà, on ouvre au niveau du genou, on fait un nettoyage, un curetage, on referme et ça va mieux. Et je ne sais plus c'était quelle pathologie, mais mettons...
Ils ouvraient quand même.
Oui, bien sûr. Okay. Ils ouvraient quand même pour le placebo.
Oui.
Alors, donc normalement, ça, c'est l'opération classique.
Ils te dessinent une cicatrice.
Non, c'est très, très fort. Ce qu'ils ont fait, c'est que donc, c'est un chirurgien qui, à la base, n'était pas du tout convaincu par les faits. Il s'est dit, genre, bah non, mais nous, notre taf, hein, si on... c'est pas qu'ils aiment charcuter, mais c'est que si on fait pas d'opération, bah on sert pas à grand chose, quoi. Mais donc, ils ont fait plusieurs groupes. Donc, à certains, ils leur ont fait le truc complet, genre nettoyage, curetage, ils leur ont fait les jantes, enfin, nickel. Et d'autres, en fait, où ils leur ont fait juste une petite incision, histoire qu'ils aient quand même la petite cicatrice, et basta. Et pour faire semblant, ils ont fait comme si, donc ils ont retransmis une vidéo aux patients au cas où ils se réveillent pour qu'ils puissent voir des vrais gestes d'opération, donc avec une vraie vidéo, etc. Donc avec toute une équipe autour, enfin c'était comme une vraie opération, sauf qu'ils ont juste fait une incision, ils n'ont pas balancé de capteur dans le genou, etc. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils se sont rendu compte que bah, au réveil, bah, y avait, les patients qui avaient eu la vraie opération et ceux qui avaient juste l'entaille au genou pardon, avaient le même niveau de satisfaction et le même niveau de mieux-être, entre guillemets.
Oui, mais est-ce que ça a vraiment...
Alors, ça a duré pendant des mois, voire des années.
Et c'est... puis attends, wow. Et tu peux pas le faire pour n'importe quoi, enfin, genre faire une greffe de cœur placebo
Non, ça va. Tu tousses, mais c'est pas grave.
Ouais, alors effectivement, j'en parle un petit peu à la fin.
L'appendicite placebo, pareil, c'est risqué, quoi.
Effectivement, c'est principalement lié à ce que le cerveau va pouvoir faire ou reproduire, et s'il peut produire des hormones ou des choses qui vont pouvoir aider à ce genre, si t'as une douleur au genou et qui peut produire plus facilement des hormones de manière interne qui vont pouvoir remplir ce rôle fort bien. Par contre, la trithérapie en placebo, bon, je suis pas médecin, mais c'est chaud.
On est d'accord.
Ouais, c'est pas bien. mais ça reste quand même puissant. Alors, ce que je vous dis, je vais pas partir sur des pourcentages, parce que, enfin, des chiffres et des stats, parce que c'est un peu difficile à manipuler. Mais voilà, l'effet du placebo peut aller jusqu'à la même efficacité qu'un vrai médicament, si c'est bien mis en œuvre, etc. Par contre, pas forcément sur la même durée et pas systématiquement. Donc, ça dépend des personnes, de la façon dont c'est mis en œuvre, etc. Donc, c'est pas genre, on ne peut pas soigner tout le monde avec du placebo. Ouh, c'est parti, c'est la folie. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. En tout cas, c'est pas viable. Mais sur certaines pathologies, principalement celles qui sont liées à la douleur, ça peut extrêmement bien fonctionner. Et j'ai une petite surprise en plus après, vous verrez, c'est assez rigolo. Placebo aussi, alors une des grosses utilités, putain j'ai beaucoup dit ce mot, c'est très perturbant, mais voilà, parce que je lis mes titres en fait, placebo égale référence. Vous connaissez peut-être une des utilités du placebo dans les tests scientifiques, pharmacologiques.
Alors là,
oh, est-ce que vous êtes là? C'est pour tester l'efficacité d'un médicament. Parce que quand on sort un nouveau médicament, une nouvelle substance, une pratique ou une opération, en fait, globalement, elle peut être jugée efficace que si elle est plus efficace que juste le placebo. Comme on disait, dans toute prise en charge médicale, il peut y avoir un effet placebo, juste le fait que tu reçoives la personne, que tu l'écoutes, qu'elle t'exprime ton problème et quelle est l'impression que tu la soignes, ça peut déjà la faire aller mieux. Donc si ton médicament ou ta prise en charge ne fait pas plus d'effet sur cette personne que juste lui taper sur l'épaule, ça ne marche pas.
Pas le coup de le mettre en place, quoi.
Exactement. Donc c'est pour ça qu'on fait très souvent ce qu'on appelle les tests en double aveugle. Donc c'est-à-dire que le patient ne sait pas s'il est traité avec du placebo ou pas. Le médecin ou le praticien ou le chercheur en tout cas ne sait pas quelle substance il manipule pour ne pas biaiser sa façon de prendre en charge le patient. Et on voit quels sont les patients qui réagissent plus ou moins. Et s'ils réagissent très bien, eh ben, c'est la folie et le médicament marche. S'ils réagissent pareil, bah file-lui du sucre, ce sera pareil. Non, mais bâti. Mais on a dit qu'on n'en parlait pas. Et puis moi, j'aime pas le café avec du sucre, donc c'est une autre question. Non, mais du coup, c'est très utile pour ça. Et effectivement, c'est extrêmement utilisé pour, à ces fins-là, tout simplement, savoir si une pratique est efficace. Dans les petites anecdotes très rapides, le placebo peut être testé sur plein de choses, sur de l'acupuncture, sur les médecines. Les médecines orientales, différentes façons de soigner, voire il y a eu des expériences qui ont été faites avec l'acupuncture où il y a une partie des patients qui étaient piqués à des endroits qui sont vraiment définis comme les méridiens, etc. Donc qui sont reconnus par les médecines dites traditionnelles. Et il y avait le groupe placebo qui était piqué à des endroits qui étaient censés ne pas avoir de signification et on demandait aux patients pour voir s'ils ressentaient les mêmes effets ou pas, etc. Donc voilà, on peut faire beaucoup de choses avec. Les effets, alors le placebo caféine, là j'ai parlé un peu de l'efficacité du placebo et des limites possibles. Le placebo caféine, je vous en ai parlé, on a détecté exactement le même mécanisme dans le cerveau, en tout cas chez une partie des patients, ce qui est assez fou parce que voilà, juste avec la suggestion et sans faire rentrer une substance qui est quand même potentiellement nocive, le café, dans le corps, on peut reproduire l'effet de production de, je sais plus exactement de quoi, c'est voilà, libération et fixation de dopamine. Donc ça a les mêmes effets que la caféine, donc je trouve ça assez ouf. Voilà.
C'est incroyable.
Je sens que vous êtes mais tellement chaud. Ah mais Bercy, c'est demain. Il y a un des effets qui est intéressant aussi. Ça, c'est une partie que j'ai pas trop explorée, mais parce qu'elle est assez complexe. C'est le fait qu'en fait, le placebo, il aide pas forcément à guérir les patients, mais en fait, ce qui peut aider, c'est réduire la douleur et détendre le patient, réduire le stress pour favoriser une guérison naturelle. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont on va guérir naturellement. Clairement, un rhume, une grippe, un machin. Enfin, il y a plein de cas où quand on va chez le médecin pour prendre des médicaments contre le rhume, c'est juste pour réduire les effets négatifs. Mmh. Mais ça ne guérit pas le rhume, quoi. Un rhume, ça passe en 3 jours. J'ai l'impression de parler comme un médecin. non, mais du coup, c'est quand même intéressant de permettre, en tout cas, favoriser l'état du patient pour la mise en place d'une guérison naturelle, ou en tout cas dans l'attente d'une guérison naturelle, sans forcément surcharger son corps de produits qui vont être synthétiques, quoi. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis voilà, il y a des effets physiologiques du placebo qui ont été mesurés aussi en donnant certaines substances à des personnes en leur, dans le cadre d'une expérimentation, mais évidemment, donc en leur faisant croire que c'était des substances psychoactives. Donc il y avait des vraies activités cérébrales qui ont été captées avec des productions d'endorphines, de plein de choses. Il y a notamment des tests qui ont été faits avec des placebos d'alcool.
Non.
Ouais. Donc une personne, des étudiants.
On lui donne du sucre et lui dit tiens, c'est de la vodka.
Non, mais c'est pas loin. Il y a notamment des étudiants qui ont été recrutés donc pour une expérimentation. Il leur dit voilà, on veut voir ce qui se passe dans votre cerveau quand vous buvez de l'alcool. Dit, ok, très bien. Donc le mec s'assied, on lui sert un ginto, 2 ginto, 3 ginto, 4 ginto. Ouh. Et là, il passe il a un casque sur la tête, un IRM ou je sais pas quoi, et on voit son activité cérébrale effectivement qui réagit très bien. Qui réagit normalement comme s'il buvait vraiment de l'alcool, alors que ce n'est
pas de l'alcool.
Non, c'est pas du tout de l'alcool. Aucune substance alcoolique. Et en fait, ce qui est le plus drôle, c'est qu'en discutant avec les étudiants, ils avaient du mal à parler, ils bégayaient et ils se sentaient totalement sous. Ouais, mais vraiment, le mec disait genre, oh putain, j'ai plus de 4 ginto, hein, pas bien. Et donc vraiment, ils sentaient la sensation d'alcoolémie. Et le deuxième truc très très drôle, c'est que une fois l'expérience finie,
ils ont vomi.
Ah mais non, mais ça aurait pu. Non, mais ils font asseoir le mec ou les personnes à une table et ils lui disent mec, désolé, mais en fait on t'a pas. Enfin, déjà on lui pose la question, donc tu te sens alcoolisé, je suis un peu groggy, etc. Et après il lui dit en fait ce qu'on t'a filé, c'est pas des substances alcooliques, c'était du pur soft. Et là le mec hallucine et en fait en 5 minutes
il a dégoûté.
Tout descend et dit putain c'est ouf, il y a 5 minutes je me sentais vraiment rébou, et là j'ai repris tous les moyens.
Ouf.
C'est impressionnant.
Ça me fait penser que, enfin, c'est une sorte de parallèle, mais il y a des études qui montrent que si on prend une classe et qu'on décide de la surnoter, par exemple, on prend 2 classes, il y en a une, elle est notée normalement, et l'autre, on décide par exemple dans une matière de la surnoter, c'est-à-dire que tous les élèves auront 2 points ou 3 points systématiquement en plus, sur tout au long de l'année, à l'examen, la classe qui a été surnotée a de meilleures notes.
C'est génial. C'est
Alors bon, il y a des mécanismes un peu différents de confiance en soi, de plaisir à travailler, à être Mais tout ça en fait, ça tourne autour d'un truc qui est un peu semblable, qui est la puissance en fait de la croyance. Et là, c'est pas juste la croyance comme délire perso, parce que t'as bien dit, Ilias, ça dépend aussi du contexte dans lequel on est, de la réaction des autres, etc. Mais en fait, on peut créer une sorte de contexte un peu fake, un peu mis en scène, mais qui du coup va produire des effets sur sur nos réactions, et même sur des mécanismes hyper subtils dont on n'a pas conscience, qui sont des réactions physiologiques ou hormonales. Et c'est assez flippant parce que souvent on a l'impression que le corps est tout puissant et que quand on est malade, quand on a un virus, etc., on n'y peut rien. Et en fait, on est un peu les premiers médecins de nous-mêmes, quoi. À partir du alors ça veut pas dire qu'il suffit d'être optimiste pour guérir, mais ça veut dire que à l'inverse on peut pas dire que l'esprit n'a aucun effet. Et l'état d'esprit en fait est hyper déterminant sur la réussite, sur la guérison, c'est totalement hallucinant, quoi.
Ah, vous me faites extrêmement plaisir parce que à part le fait que vous ne montiez pas au nu, je suis passionné.
On a réservé un peu nos effets, tu vois.
On
est attentifs.
Et puis vous avez magnifiquement mené à toutes mes transitions. Je suis extrêmement content puisque c'est effectivement le cœur de ma conclusion. Encore une fois, j'essaie d'être positif et j'essaie de me faire le petit plaisir de vous donner un nouvel outil que vous pouvez utiliser au quotidien, parce que j'aime bien ce genre de truc où quand on réalise, on fait en fait je peux l'utiliser, et vraiment dans ma vie de tous les jours ça peut augmenter substantivement, ou putain de Dieu, je me serais pas lancé là dedans avant celle-là, substantifiquement, bref, votre vie sera cool. Donc, conclusion, ce que mes recommandations tout à fait humbles, et après vous faites comme vous le sentez, déjà avoir l'esprit ouvert, parce que ça peut apporter que du mieux, bêtement, quand on est
spécial dédicace à Jean-Claude Van Damme.
c'est fou, et même si je suis pas forcément friand de ce genre de truc un peu bateau, etc., mais globalement on se rend compte que statistiquement, si on a l'esprit ouvert et qu'on y croit, ça ne peut apporter que du mieux.
C'est vrai que j'adore l'eau.
Non, mais c'est ouf. Au contraire, truc important, avoir l'esprit fermé ou être sceptique, bah, ça peut nous couper d'une partie d'effets bénéfiques réels. Donc, si on vous propose quelque chose et on vous dit, putain, tu verras, ça va être cool, bah, en fait, vous n'êtes pas obligé d'y croire de ouf, mais plus vous allez... Alors, je vais pas encore une fois le dire de manière pas très classe, mais plus vous allez déverser votre somme là-dedans, bah moins ça a de chance d'avoir d'effet, voire ça peut avoir un effet négatif.
C'est tout à fait vrai.
Donc si vous crachez sur un truc, mais en fait ça peut vous tordre en deux de douleur, alors que en fait ça fait pas si mal que ça. Ou bien si on vous donne un truc qui est bah, plutôt chouette et plutôt bon pour la santé et que vous y croyez pas du tout, bah votre cerveau peut simplement bloquer les effets de cette substance bénéfique. Et je ne parle aucunement de choses qui se mettent dans le nez ou non, non, non. Quand je dis substance, c'est purement médicalement parlant, se détend. Ouais, je dérape un peu sur la fin. Et voilà, dernier petit point, des trois petits points que j'ai listés, parce qu'il y en a d'autres après. Mais donc, il y a des chances pour qu'on ait déjà...
c'est plus très bien où on est.
C'est le mec qui fait des conclusions dans les conclusions de ses conclusions.
Ouais, mais alors, je sais pas pourquoi. Tu sais, j'ai une conclusion, j'ai 5 points et j'en ai mis 3 avec des tirets et 2 non. Mais bon, un truc qui est sympa à réaliser aussi, c'est qu'en fait, il y a des chances pour qu'on ait déjà toutes et tous profité d'effets placebo, comme on disait, avec l'aspirine, avec le café, avec le machin. Mmh. Et souvent, quand on entend parler de placebo, on se dit, oh, c'est fake, etc. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Hicham. Non, c'est pas fake, parce que ça a des vrais effets physiologiquement parlant sur le corps. Et donc, bah, profitons-en. Il n'y a pas de raison de cracher dessus. Il y a la petite phrase bateau de bah, 90% de la guérison, c'est le mental. Et bah, c'est pas si faux que ça, en fait. Parce que si on n'a pas le mental, en tout cas, si on n'essaye pas de l'avoir, et Dieu sait que c'est difficile, et bah, en fait, ça peut réduire l'efficacité d'un traitement. Donc, si vous êtes dans une galère, et bah, aussi dur que ce soit, je vous encourage à essayer de garder ce moral, en tout cas, de soutenir vos proches pour qu'ils l'aient. Parce que ça pourrait leur faire énormément de bien. Et la toute dernière conclusion.
Non,
c'est vraiment la toute dernière. Mais ouais, je rebondis un peu sur ce que disait tout à l'heure Thibaut, que je trouve très très beau, c'est le côté... Alors, j'ai commencé en disant, c'est pas magique. Et ben en fait, je vais conclure ce côté magique, parce que je trouve ça ouf que ce soit bah, le réel qui habituellement influence le ressenti. Donc ça, c'est classique, tu prends un médicament, bah, bim, ça va mieux, t'as moins mal, etc. Mais là, c'est l'inverse, c'est le ressenti qui va influencer le réel. C'est bah, si j'y crois, bah, ça peut me faire un effet bénéfique, et ça, je trouve ça plutôt chouette.
Bravo, pas mal.
Bravo, patron.
Ah, merci. Oui.
Et merci, patron.
Merci,
comme le
patron.
Film.
Merci, patron. Oula.
Vous me faites flipper. Ouais, j'espère que vous avez suivi, il y aura une interro à la fin. Je ferai une... Ah putain, faut que je fasse des interros, tu sais, à la fin de l'année sur genre thématique, genre médical et tout. Comment ouais. fonctionne le placebo? c'est quoi l'expérience sociologique préférée d'Ilias?
Les chiens. La réponse, toujours, c'est les chiens.
C'est vrai, j'aime bien.
Les chiens eux-mêmes.
Oui.
Voilà.
Et adopté à l'espère. Sur ce, ce sera mon dernier message de papa. On te remercie encore Thibaut, c'était vraiment un réel plaisir de te recevoir. Et
merci à vous, j'ai passé une magnifique soirée.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Gros plaisir. Et puis, dans tous les cas, bah, on se reverra dans quelques semaines pour le Paris Podcast Festival.
Ah ouais, oui. venez tous. C'est gratuit, la bière est pas chère et il y a plein de podcasts à se mettre dans les oreilles.
Oui. Alors, quand est-ce que tu décides de monter un Franche-Comté Podcast Festival? Alors, pour te délocaliser un petit peu, peut-être à Besançon, tu vois.
Exactement,
avec EDF pour le temps qu'ils mettent l'électricité, quand même.
Non, tu crois pas si bien dire, mais il y a des choses qui se réfléchissent.
Yeah.
Oh, du côté de la Franche-Comté?
Peut-être pas déconner quand même.
Comtoise, rebellez-vous, exigez.
C'est vrai, on a une grosse communauté franc-comtoise. Oui. Non, ils sont 6, mais ils
On va faire le Besançon Podcast Festival.
Ah, mais le Besançon, putain, c'est
mais
bien,
génial
ça. Le Besançon, comme du
mais
son.
Voilà, ben oui, absolument.
Tu piques pas l'idée, hein. Trop cool. Et si on rappelle les dates du Paris Podcast Festival.
Ouais, 18-20 octobre, Gaîté Lyrique. Voilà, il y a plein de métros et de RER qui vous permettent de venir. Globalement, ça commence vendredi, samedi, dimanche à midi. Ça se termine vers 22h. Il y a des avant-premières, c'est-à-dire des tout nouveaux sons à se mettre dans les oreilles qui vont être présentés. Il y a des enregistrements en public, des lives. Donc de plein de podcasts différents sur plein de sujets différents. Et puis il y a des rencontres, ça on adore ça, c'est-à-dire la possibilité de mettre enfin des visages sur des voix et de se dire tiens bah c'est marrant, il a pas du tout le physique de sa voix, ou au contraire je l'imaginais exactement comme ça, putain qu'est-ce qu'il est beau gosse Ilias, enfin tu vois
faut vraiment que j'invite des gens pour qu'on fasse des compliments
voilà,
dans ce podcast,
des trucs comme ça. Et puis il y a des petites surprises aussi, on va faire un resto à podcast si vous savez pas quoi écouter, il y a des menus d'écoute,
je crois qu'on a les bouffées.
Voilà, on va faire une usine à podcast si vous avez des histoires à
à raconter, ben, on recueille vos histoires et on vous les montre, on vous les envoie et ça fait des histoires que vous pouvez partager avec, avec vos amis, avec votre communauté, avec tout le monde. Et puis last but not least, on est aussi voilà, un festival où on donne des récompenses. Et donc voilà, on a monté une compétition et on essaye aussi de soutenir un peu ceux qui font ces magnifiques épisodes ou ces magnifiques documentaires, fictions, tous ces épisodes de podcast qu'on écoute. Voilà, il y a une compétition avec plein de catégories et on essaye de récompenser voilà, les meilleurs podcasts de la saison avec un jury, un super jury qui va regarder tout ça. Et il y a des sous-sous à la clé. Voilà.
Pour l'avoir vu l'an dernier, c'est très très loin de ne récompenser que les gros studios ou que les grosses radios, parce qu'il y a eu des indépendants qui ont fait des choses magnifiques, qui ont reçu des prix l'an dernier, et j'ai très hâte de voir la sélection de cette année. Il y a eu des très 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 belles choses l'an dernier, bah, notamment Anouk qui avait reçu un prix avec Julien Sennobori, parce qu'ils étaient co-qualifiés, on va dire. Anouk, on avait reçu l'an dernier, j'oublie les épisodes, on en fait trop. Mais non, il y avait beaucoup d'indés qui avaient fait des trucs magnifiques, et j'ai pu en tête celui qui avait fait un truc un peu rappé, slamé, enfin qui était monstrueux d'intelligence et de justesse et qui était qui m'avait retourné le crâne. Donc pareil, on vous le partagera parce que c'était assez fou.
Anouk, c'était saison 2, épisode 17.
Ah, génial. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on a, on a une poutre avec les Polaroids qu'on a imprimé avec nos invités au-dessus de nous et Hicham a pu lire. Voilà, saison 2, épisode 17 à Ken.
Bah, j'espère que c'est elle. Parce que...
c'est d'une gênance de ouf.
On dirait. Bon.
Voilà, donc bienvenue en tout cas, on vous attend hyper nombreux, c'est gratuit et voilà, il y a plein, il y en a pour vraiment, il y en a pour les enfants, il y en a pour les plus âgés.
Ouais, c'est très bonne enfance.
On va parler de porno audio aussi, tiens, on va voilà.
pas pour les enfants.
Mais pas pour les enfants, pour le transition. Courant, ouais.
Non, mais c'est pour dire qu'il y en a pour tout le monde en fait. Oui. Voilà, et que on va essayer voilà de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui se mettent de bon son entre les oreilles et qui arrêtent de déprimer dans les transports en commun ou en faisant leur sport, mais qui puissent tout simplement écouter ce qu'ils aiment. Il y a un podcast en fait pour chacune de nos envies, quoi, pour chacune de nos passions. J'ai l'impression d'être un peu Miss France en fait en disant ça. Le festival de tous les podcasts, tout le monde est bien accueilli. Voilà. Non, mais rendez-vous 18-20 octobre à la Gaîté Lyrique à Paris.
Top. Et ben merci beaucoup. Et ben nous, dans tous les cas, on vous donne rendez-vous le samedi 19 dans l'après-midi. On vous donnera la date, enfin l'heure.
Ouais, exacte. Deuxième partie d'après-midi.
Voilà, venez nous voir. Il y a une petite séance de questions-réponses très très chouette. Puis dans tous les cas, on se voit très vite. Allez, bisous. Ciao.
Bonne soirée à tous.
Vulgaire.
Oui, je trouve ça vulgaire.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.